21h et puis tout de suite et en direct, le libre journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie à la seconde près, il est 18h.
La radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 1er octobre 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 2 octobre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir, mesdames et messieurs, Nicolas Beau, retournez vite devant vos téléviseurs, le foot va bientôt commencer.
Vous allez bien, Victoria ?
Je vais très bien, merci.
Moi, je n'aime pas les jeunes, toute la racaille est dans les rues.
Il y aurait une différence visible entre les jeunes Allemands et les jeunes des cités.
L'important, c'est le respect mutuel. Le respect.
C'est-à-dire que les gars, ils attaquent les autobus,
mais pas le 97, hein, c'est celui qu'on retravaille. C'est l'occasion pour toute la racaille de sortir des égouts. Ah non, hein, moi je suis destiné à être comme un seul comme.
Moi je n'aime pas les jeunes. Moi.
Bon, je vous rassure, c'est pas le nouveau générique.
C'est dommage.
C'est des jeunes musiciens, enfin des jeunes qui font du riff, du rap, je sais pas quoi. Ils sont amusés à prendre des extraits de certaines émissions dont je me suis rendu coupable et ils ont fait un montage comme ça. Ça s'appelle du. C'est de la techno, non? Qu'est-ce que c'est?
Ah, ça c'est Marine, du techno, il y a du boom.
C'est du rap. Ah, d'accord.
C'est du rap techno.
Oui, elle a raison, Victoria.
Parfaitement.
C'est du rap sur fond de techno. Bravo,
non,
Victoria.
Il y a du boom boom.
Et ils sont vachement branchés.
Ah, tiens, moi j'ai des voisins qui m'ont montré.
Ah, elle est super cool,
moment,
Victoria.
Boum, 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 ma tête, j'ai souffert.
Bon, donc c'était un rap Bekech sur techno.
Téléphonez les jeunes pour que ça devienne le nouveau générique.
Ouais, si vous voulez que c'est le nouveau générique, il faut téléphoner là. Bien, alors tout ça c'est pour mettre dans l'ambiance jeune, puisque je reçois Marine Le Pen, Génération Le Pen. C'est la première fois d'ailleurs. Que... Dans mon émission ?
Ah oui, c'est la première fois, tout à fait.
Oui. Oh non, mais si, peut-être dans... il y a des années.
Dans l'émission de Serge de Béguet, c'est la première fois, mais j'étais venu avec le grand Guillaume.
Non, vous êtes venu à l'émission de Serge de Béguet, ça je suis sûr. J'ai envie de rechercher, je vous le dis.
Bon, on va chercher ça. Non, mais c'est la seule qui a une mémoire ici, moi. Bien, alors donc, on va parler de l'actualité, on va parler de vous, de votre campagne, de la campagne que vous avez lancée pour les régionales. Il faut m'aider, parce que moi, en politique, j'y connais vraiment rien.
On l'achève.
Et les européennes. Alors, vous venez d'entendre la voix d'Emmanuel Ratier, qui est venu pour m'assister, puisque lui, en politique, s'y connaît vraiment bien. Patrick Goffman, qui est là aussi.
Bonsoir, Serge. Bonsoir à nos innombrables auditeurs dans le monde entier, Victoria, et au-delà.
Et au-delà.
Ça l'énerve.
Jusqu'au fin fond de l'univers. Ah, et Victoria, bonsoir.
Bonsoir, Serge.
Ah, il faut quand même que je balance, c'est Goffman qui a absolument voulu qu'on passe le rap techno. Hein. Moi, j'étais pas très pour. Et encore, on n'a pas passé l'intégrité parce que... L'intégralité, si je veux dire. L'intégrité, donc. L'intégralité.
Bien parti,
parce que sur la fin, quand même, ça dérape légèrement. Enfin, si vous en voulez une version non censurée...
Envoyez 15 euros.
Non, je sais même pas. C'est un... Comment dirais-je, c'est un...
Une simple bande.
Non, c'est pas une bande, c'est un véritable CD, mais c'est un master.
Un master.
Ouais. Bon. Bien, alors, je pense qu'il y a au moins une demi-douzaine d'auditeurs qui viennent de s'évanouir. Quand ils ont entendu le faux générique, ils ont dit ça y est, les deux.
Non, parce qu'ils ont reconnu votre voix.
Ah bon, ça va.
Ça a dû les rassurer.
Alors, on va commencer par une petite anecdote. Vous savez que j'aime bien commencer par des choses un peu amusantes. Et j'ai reçu une lettre d'un auditeur qui m'envoie un petit peu de correspondance. Alors, je vais faire un peu de lecture, je vais essayer d'être court. Donc, ce monsieur, en février 2003, adresse une lettre au préfet de police de Paris, avec copie à M. Chirac, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, TF1, Antenne 2, FR3, etc. Enfin, vraiment, il y va. Alors, il dit, voilà, ce jour, j'appelle la police du 19e au 01-55, etc., vers 16h45. Après 23 minutes d'attente... Une personne me répond. Je lui explique qu'une telle attente est inadmissible. Elle me répond qu'il faut bien qu'elle réponde aux appels. Plus de 20 minutes d'attente. S'il y a plus de 20 minutes d'attente, c'est qu'il y a un problème grave d'effectif ou d'organisation, fait remarquer ce lecteur. J'explique la raison de mon appel. Il s'agit du hall de mon immeuble envahi par les voyous habituels qui nous insultent et provoquent des dégradations de toutes sortes. La personne au bout du fil se met à rire. On a des flics qui ont le sens de l'humour, c'est agréable. Je lui demande pourquoi et je rajoute que c'est sans doute parce qu'on l'appelle tous les jours pour la même raison. Elle me dit que oui. Si la police faisait bien son travail par rapport à ce problème quotidien, peut-être ne serions-nous pas obligés d'appeler tous les jours. Sur cette discussion, cette personne me dit qu'elle va envoyer quelqu'un. Alors écoutez la suite, parce que ça devient beau là. Une heure après, je croise dans la rue trois îlotiers. Je vais vers eux et leur explique le problème. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas intervenir, ils ne sont pas assez nombreux. Et puis ils ajoutent qu'ils n'habiteraient ce quartier pour rien au monde. Bon. Je rappelle le commissariat, je tombe à nouveau sur la même personne, je lui explique que le problème d'envahissement du hall s'est aggravé et que personne de la police n'est venu mettre un terme au désordre. Cette personne me dit qu'elle a demandé un véhicule, mais on ne sait toujours pas quand il va arriver. C'est extraordinaire, mais on ne peut jamais obtenir de délai d'intervention. Il y a toujours des prétextes de cas graves, des urgences, des accidents de la circulation. Chose bien entendu incontrôlable. La réalité, je pense, est tout autre. On laisse pourrir la situation, parfois ça s'arrange, et si on peut intervenir après la bagarre, ce n'est que mieux, sans doute au mépris des résidents. Je déplore une fois de plus l'inefficacité de la police, et je dénonce avec vigueur le discours du ministre de l'Intérieur qui est en inadéquation totale avec la réalité. C'était l'époque où le ministre de l'Intérieur expliquait que l'envahissement des halls d'entrée s'était terminé, on allait voir ce qu'on allait voir.
On a même pris une loi.
Il y a même une loi qui a été votée là-dessus. Alors, cet auditeur envoie cette lettre. Le 3 février 2003. Et, comme on est dans l'administration, le 8 septembre 2003, il reçoit une réponse du préfet de police, cabinet du préfet. Monsieur, par lettre en date du blablabla, je puis vous affirmer que l'enquête effectuée au cours de laquelle vous avez bien voulu apporter votre témoignage. D'abord, vous remarquez que c'est pas du français. Je puis vous informer que l'enquête effectuée au cours de laquelle vous avez bien voulu apporter votre témoignage n'a pas révélé de faute imputable à l'agent mis en cause. Bon. Et alors, ça c'est le plus beau. Par ailleurs, pour améliorer la qualité de l'accueil, Le standard téléphonique a été doté d'une messagerie d'attente. Mais... Donc vous voyez qu'on a un préfet de police, c'est pas un bidon. Hein. Il y a un problème, il réagit tout de suite. D'ailleurs, 8 mois plus tard, on met une messagerie d'attente.
Oui, mais c'est une politique, je crois, qui est réelle dans ce pays. Aujourd'hui, M. Sarkozy s'intéresse aux victimes. Il pense que s'intéresser aux victimes va faire baisser le nombre des délinquants. Alors on crée des cellules psychologiques de réception des victimes, on fait des messages rassurants aux victimes, moyennant quoi il y en a quand même de plus en plus.
Alors, enfin, on devrait remplacer, supprimer les flics et remplacer par des cellules de soutien psychologique.
C'est exactement ça.
Hein, c'est pas idiot, parce que comme ça, ils n'interviennent pas trop vite. Mais alors, j'ai lu cette lettre parce que la semaine dernière, je vois un clochard sur mon trottoir qui était en train, je pensais qu'il était en train d'agoniser. En réalité, il était simplement en train de cuver, mais n'étant pas un spécialiste de la question, je pouvais pas être certain. Il était allongé sous la pluie, absolument immobile. Donc j'appelle le 18 et je dis voilà ce qui se passe. Et le 18 c'est les policiers ou c'est le 17, je sais jamais. Enfin j'appelle
c'est
la police.
Les pompiers.
Voilà, j'appelle la police. Et le gars me répond mais vraiment texto hein. Et alors qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ben, je lui dis envoyez une équipe, ce type va mourir, il est sous la pluie, il est en train de il est totalement immobile. Ah c'est pas mon boulot, vous n'avez qu'à appeler le SAMU social. Non, appelez le commissariat de votre quartier. Je dis, bon, ben, appelez-moi, commissariat de mon quartier, je suis dans le 10e. Ah non, vous n'avez qu'à faire ça vous-même. Ben, je dis, bon, ben, donnez-moi le numéro du commissariat de mon quartier. Il me dit, ben, vous n'avez qu'à chercher dans l'annuaire. Bon, d'accord. Alors, je le prends un peu sur un ton désagréable, je dois bien dire, j'étais pas très amène. Et puis, finalement, je me dis, je vais appeler les pompiers. J'appelle les pompiers, alors là, stupeur, j'ai exactement la même réponse. C'est pas notre problème. Vous n'avez qu'à appeler le SAMU social. Donc j'ai fait le 115. Il était 10h moins le quart quand j'ai commencé. Je vous jure que c'est la vérité. J'ai appelé jusqu'à 2h15 du matin. Tous les quarts d'heure. Je n'ai jamais pu avoir de réponse. J'avais un disque qui me disait « Nos travailleurs sociaux sont en ligne, veuillez rappeler ultérieurement. » Alors je me demande ce qu'ils peuvent. Enfin franchement, de 10h moins le quart à 2h15... Ça fait 4h30, si je suis encore compté. Hein.
Je remarque que nous rions tous un peu jaunes autour de cette table, et c'est sans doute parce que, Serge, vous venez de raconter la version courteline de ces histoires. Mais il y a à Perpignan, il y a quelques jours, un vieux monsieur qui en est mort de cette situation d'insécurité, et de ce simple... parce que lui, il n'a pas téléphoné aux flics, il a fait une observation lui-même. Je dis un vieux monsieur de votre âge et du mien, et il en est mort en quelques minutes. Et je pense aussi à Jean Bruel, qui est mort d'une crise cardiaque après avoir été poursuivi par des jeunes il y a quelques mois de ça. Et si je parle de Jean Bruel, c'est aussi parce que tout mort qu'il est, je crois que nous lui devons un peu la présence de Marine Le Pen ce soir.
Ah ben d'une certaine manière, parce que vous deviez lancer votre campagne.
Oui, voilà, je devais lancer ma campagne sur son bateau demain, et il a été très difficile, après son décès, il faut bien dire, de voir les engagements qui avaient été pris être respectés. Je le regrette profondément, parce que j'avais une amitié très sincère pour lui, et nous avons donc dû changer nos plans. Ce lancement de campagne se fera vendredi, sur une autre péniche, puisque je crois que nous ne sommes plus les bienvenus, semble-t-il.
Sur les bateaux de l'amiral.
Ouais, on peut je crois qu'on peut d'ailleurs dire un mot de Jean Bruel quand même.
Et oui, j'allais vous le demander parce que vous l'avez bien connu.
Non, je l'ai pratiquement non.
Oui,
je pense que je l'ai connu.
Vous savez qui c'est
d'autre? Oui, non, mais c'est le créateur des bateaux mouches. Bon, c'était un ancien résistant.
Sébastien Mouche, l'inventeur.
Oui, oui, il y a toute cette polémique extraordinaire, savoir si on mettait un S ou non. Parce qu'il y avait eu des discussions à n'en plus finir dans le Figaro, ce qui avait permis de lancer sans publicité en fait les bateaux mouches. Et donc c'était un ancien résistant,
mais toujours partisan. Pas si ancien que ça, il a toujours été résistant.
Et toujours partisan de la réconciliation française et nationale, et qui ouvrait très généreusement son bateau, je dirais, à l'ensemble de la droite, puisque les Villiéristes s'y réunissaient, les Royalistes, le Front National, les amis de Pierre de Villemarais, les amis de l'Afrique du Sud. Enfin, c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique et ouvert, qui n'avait pas hésité d'ailleurs à prendre des positions courageuses, notamment contre l'euro, parce qu'il disait toujours qu'il fallait payer en francs, ou au moment du bicentenaire de la Révolution, ça avait fait quelques titres, notamment dans Libération, le commentaire qui était destiné aux touristes était assez violemment critique vis-à-vis de François Mitterrand, ses grands travaux et toute l'horreur révolutionnaire. Et on voit que, comme dans d'autres cas, on va pas donner son nom, mais enfin un fabricant de pain de qualité assez célèbre, qu'on pouvait dire assez proche de nos idées. Dès qu'il est décédé, ses filles qui ont repris l'affaire n'ont pas eu une envie plus rapide que de se dédouaner vis-à-vis de la mémoire de leur père et de leur grand-père. Ouais. Puisque leur grand-père était membre de Jeune Nation. Voilà. Et je crois qu'avec, malheureusement, avec les bateaux mouches, je crois que...
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants dignes de lui.
Si on n'a plus la pelouse de Reuilly et si on n'a plus les bateaux mouches, où va-t-on se réunir?
On va bien trouver.
Qu'est-ce qu'on va manger comme pain, surtout? Il y a, à propos de Bruel, il faut quand même, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais moi qui suis un vieillard, comme le faisait élégamment remarquer mon camarade Goffman à l'instant.
Un contemporain, se permettre.
Je me souviens très bien que, à l'époque où Malraux était ministre de la Culture, Bruel avait fait un scandale énorme en affichant à l'entrée des bateaux-mouches interdit aux chiens et aux ministres du général de Gaulle. Ça avait quand même fait un certain raffut.
Vous ne parlez pas de Patrick Bruel, Serge, vous savez qu'il est en difficulté en ce moment avec Libération, en train de se débattre. Non, au contraire, il se débat contre l'accusation de péténisme dans les colonnes de Libération, donc c'est pas le moment de l'accabler. Hein. Nous y reviendrons dans le prochain numéro du Libre Journal.
Patrick ! Bien, allez, on a dit assez de bêtises, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors, Marine Le Pen, je suis content de vous recevoir parce que, au fond, on parle beaucoup de vous dans les médias, mais de façon curieuse, on parle plus de vous dans les médias que moi j'appelle des médias ennemis que dans les médias amis. Et ce qui fait que vos propos sont livrés comme ça, probablement avec des intentions qui ne sont pas droites, comme dirait le curé. Et j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur trois choses. D'abord, on va parler naturellement de votre campagne. On va parler également de l'actualité, de vos réactions sur les événements de l'actualité. Mais j'aimerais avant qu'on fasse un petit peu de ménage sur certains propos qui ont été ou qui vous ont été prêtés ou que vous avez tenus et qui ont donné lieu à des interprétations pas forcément favorables. Et je crois que ce qui résume assez bien l'attitude des journaux, de la grosse presse ou de la grasse presse à votre endroit, c'est un titre du Financial Times qui est tout récent, qui dit, j'en livre la traduction parce que je ne voudrais pas donner le spectacle lamentable de mon accent, la fille de Le Pen s'évertue à donner une image acceptable de l'extrême droite. Alors, La première question qui se pose, c'est la question de votre réaction quand on parle d'extrême droite. Parce que Jean-Marie Le Pen avait l'habitude de dire « Moi, je ne suis pas d'extrême droite, je suis d'extrême droiture. »
Oui, ben ça revenait au même. Le problème de la terminologie d'extrême droite, c'est que tout à fait évidemment, son but, c'est de nous coller l'étiquette d'extrémiste. Bon. Or, nos positions n'ont rien de position extrémiste. Il existe, et vous le savez bien, M. De Becquette, une extrême droite en France, qui d'ailleurs se situe en règle générale autour de 2%, qui a toujours existé. Et je crois que le Front National n'est pas un mouvement d'extrémistes et d'extrême droite. Je crois que c'est la droite nationale. C'est d'ailleurs ce qu'a toujours dit Jean-Marie Le Pen. C'est pas parce qu'on nous colle une étiquette qu'il faut obligatoirement l'accepter, surtout lorsque cette étiquette vous est apposée par vos adversaires politiques.
Oui, et les mêmes adversaires politiques accusent les gens de la LCR, enfin accusent, appellent les gens de la LCR ou des groupements trotskistes et l'extrême gauche, et l'extrême gauche ne s'en défend pas, alors que l'extrême gauche a toujours été beaucoup plus criminogène.
Oui, mais parce que l'extrême gauche est extrémiste de gauche, qu'ils sont des révolutionnaires, ça n'est pas notre cas. Quant au titre du Financial Times, mon but, je ne m'évertue pas à donner une bonne image du Front National, je m'évertue à donner la vraie image du Front National, voilà. Je pense qu'on a fait l'objet d'une diabolisation durant de très longues années, qu'on ne connaît pour beaucoup de nous qu'une caricature qui a été construite par nos adversaires, et que depuis la présidentielle, nous avons peut-être un peu plus de facilité à nous présenter tels que nous sommes, à nous faire entendre tels que nous sommes. Voilà, c'est ce à quoi je m'évertue, et je pense que ça va évidemment dans le sens de l'intérêt national.
Alors si on vous demandait de vous définir sur l'échiquier politique traditionnel, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez la droite conservatrice, droite...
À partir du moment où il n'existe plus de droite, à partir du moment où Jacques Chirac est considéré dans d'ailleurs beaucoup de pays étrangers comme un homme de gauche, ce que nous considérons nous aussi, puisqu'il fait tout pour détruire consciencieusement depuis des années la nation, eh bien nous sommes, effectivement, on pourrait se considérer sur l'échiquier politique comme de la vraie droite nationale. Voilà. C'est difficile d'aller plus loin que ça.
Mais je ne sais pas, parce que
c'est déjà bien, je trouve.
On peut peut-être rajouter la droite nationale et populaire.
Ah, que oui. Mais on peut même dire populiste. Moi, c'est un terme qui ne me dérange pas. Quand on m'a dit, vous êtes les nouveaux populistes, moi, je trouve que populiste, ça n'est pas une insulte. Je trouve que c'est un honneur d'être considéré comme populiste. Voilà, nous œuvrons par le peuple, pour le peuple. Moi, le terme de populiste, je le trouve assez sympathique. On pourrait peut-être se faire appeler les alters populistes.
C'est pas mal. Pas mal, voilà. Oui, joli fort.
Non, je le disais parce que c'est vrai qu'on l'a souvent un peu oublié, mais pendant très longtemps, le Front National, c'était mouvement de droite nationale et populaire, et ça figurait juste en dessous de toutes ces publications. Et comme on fête les 30 ans du Front, moi qui le connais depuis l'origine,
ça allait sans dire, mais ça m'a mis en
attaché disant. Au côté populaire, et c'est vrai que c'est le premier parti ouvrier de France.
Vous savez très bien, M. De Becquetch, que Jean-Marie Le Pen a commencé sa carrière au centre droit, et que comme il n'a jamais changé d'avis, il pourrait toujours y être. C'est donc toute la classe politique qui s'est déportée vers la gauche.
C'est d'ailleurs ce que Jean-Marie Le Pen a dit. Il a dit, moi, j'ai pas bougé.
Interview du Parisien en avril 2002, un mois avant l'élection. Mmh. Il a dit, expliquez ça.
Non, mais il est certain qu'il passerait certainement pas pour un homme d'extrême droite si on revenait 30 ans en arrière. Pas du tout. Parce que les positions étaient beaucoup plus nettes, beaucoup plus tranchées sur toute une série de sujets entre la droite et la gauche à l'époque, alors que maintenant, effectivement, il n'y a pas une grande différence, ou il n'y a pratiquement pas de différence, on le constate avec les échanges dans les cabinets, où c'est les mêmes gens des cabinets de droite qu'on retrouve dans les cabinets de gauche, les mariages, les postes dans les banques, etc., etc. Mmh. Donc en fait, on l'a bien vu d'ailleurs au moment de l'élection présidentielle, où quand même les électeurs ont quand même eu un petit peu, en tout cas au premier tour, eu envie de montrer qu'ils souhaitaient un
choix. Ils voudraient bien sortir des cabinets, c'est ça. Alors, il y a une autre question qui est toujours dans le portrait que donne de vous, ou les images, l'image qu'essaie de donner de vous la presse ennemie. Je pense que, alors c'est toujours à double tranchant, parce que c'est probablement, utile, en direction de l'opinion publique moyenne, et c'est probablement nocif en direction de l'opinion publique de l'électorat naturel du Front. C'est, on donne de vous l'image d'une femme libérale, je dirais presque libre, presque affranchie. Et par exemple, on glose beaucoup sur votre position à propos de l'avortement ou de la loi Veil. Mais moi, j'ai jamais entendu de déclaration claire et nette. De vous ? Non, j'ai jamais entendu quelque chose.
Pourtant, je ne suis quasiment interrogé que là-dessus, alors que je pense qu'aujourd'hui, je crois que le rôle d'un politique, vous savez, c'est de déterminer les priorités. Bon, je ne pense pas que l'avortement, aujourd'hui, soit une des priorités, parce que notre pays est en train de disparaître purement et simplement. Mais je l'ai expliqué à de multiples reprises. Mais je peux à nouveau l'expliquer si ça vous intéresse. Moi, je suis pour le pragmatisme et pour l'efficacité. Je pense que supprimer la loi Veil, que personne ne connaît d'ailleurs, parce que personne ne sait réellement quel est le contenu de la loi Veil.
Si les gens
le savaient, voyez-vous, ils auraient peut-être envie d'y revenir à la lettre de la loi Veil. Je ne pense pas que la suppression de la loi Veil puisse entraîner une baisse importante des avortements. Ce que tout le monde veut. Il n'y a pas une seule personne en France et une seule personne sur Terre qui se glose, qui soit heureuse du nombre d'avortements. C'est tout à fait évidemment quelque chose contre lequel il faut lutter, mais de manière efficace. Imaginez que demain, l'avortement soit interdit en France. Elle va donc entraîner des procès et même peut-être des procès pour meurtre, après tout. Eh bien, vous aurez 200 cliniques qui se construiront aux frontières de la France, qui se construiront en Angleterre, qui se construiront en Allemagne, en Belgique, en Italie, j'en passe et des meilleurs, et où les Françaises iront avorter. Alors c'est pas comme ça qu'on peut faire baisser l'avortement. On peut faire baisser l'avortement en mettant en place une grande politique de solidarité nationale. Parce que, d'aide à la famille. Pourquoi ? Parce qu'on pense toujours que l'avortement, ce sont les jeunes filles de 17 ans qui ont eu leur première relation sexuelle. Non. La plupart des avortements, c'est le troisième ou le quatrième enfant. C'est donc tout à fait évidemment pour des raisons économiques. explique que les femmes ne peuvent pas garder cet enfant-là. Et moi, je voudrais qu'on leur redonne le choix de garder cet enfant-là. Je veux qu'on fasse, qu'on les aide de manière importante pour que justement elles puissent avoir le logement qui va correspondre à cet enfant supplémentaire, la voiture qui va correspondre à cet enfant supplémentaire, et donc le niveau de vie qui va permettre de garder cet enfant supplémentaire. Voilà quelle est ma position. C'est une position de pragmatisme, d'efficacité. Mais croyez-moi, je ne suis pas heureuse, je ne me glorifie pas du tout du nombre d'avortements dans notre pays.
Le fait est que la loi Veil a été une loi qui a été prise pour ne pas avoir à prendre les dispositions législatives qui permettaient le troisième ou le quatrième enfant.
Mais la loi Veil, si vous voulez, l'avortement était considéré comme la dernière extrémité dans la loi Veil. La loi Veil a créé le délit, je vais pas faire un discours à la gloire de Simone Veil, mais elle a créé le délit d'incitation à l'avortement, même légal. Or, aujourd'hui, elle a été totalement oubliée, totalement dépassée, cette loi Veil. Depuis des années, l'État fait quasiment la promotion de l'avortement.
Oui, on est bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que...
Donc on est très loin de la lettre
de la loi Veil. La loi Veil, c'était un piège absolument démoniaque. Ouais. C'est une loi qui a été faite pour ce à quoi elle a abouti, puisque notamment l'incitation...
Oui. C'est bien pour ça que je parle de la lettre de la loi Veil et non pas de l'esprit de la loi Veil.
L'incitation n'a jamais été poursuivie, absolument jamais.
Non, et maintenant, c'est
un seul exemple.
Et la dernière loi qui a été votée en fait un droit.
Un droit et fait un délit.
Enfin, délit de la contre-propagande, voilà. Puisque les associations qui luttent même pacifiquement contre ça, comme le docteur Dor, les délits n'ont pas été amnistiés, et les personnes sont poursuivies très lourdement.
Donc,
il n'y a eu aucune remise non plus du remboursement de la sécurité sociale.
Je pense à une autre dérive juridique qui est celle du PACS, qu'on a fait passer en nous jurant que ça n'avait aucun rapport avec le mariage homosexuel. Et dans les semaines qui ont suivi, on a commencé à nous prêcher le mariage homosexuel.
Et après, 6 mois après, c'était l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Et on va y arriver, je pense, d'ici 1 ou 2 ans.
Et on est...
D'ailleurs, ça existe déjà dans les faits, en réalité. Ouais. Il suffit de prendre des revues spécialisées de ce genre. On vous présente, je crois qu'il y a c'est dans le dernier numéro de Têtu, qui est un magazine homosexuel possédé par Pierre Berger, où il interview des enfants des couples homosexuels. Alors, théoriquement, on vous dit que c'est impossible. Bon, ben pourtant, là, on en interviewe déjà 12 et il y en a plusieurs milliers.
Non, ce qui est intéressant, bon, on ne va pas s'éterniser sur cet aspect de la chose, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça montre une dérive de l'appareil législatif qui consiste non pas à suivre les mœurs, comme ils prétendent, d'adapter la loi aux mœurs, mais de créer des lois qui vont déterminer de nouvelles mœurs.
Ah oui, non, tout à fait.
Là, on le voit, on voit ça de façon absolument évidente.
C'est probablement
évident.
Vrai. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, si vous voulez, il ne faut pas non plus qu'on ait systématiquement en tête la théorie du complot. Tout n'est pas un complot, je veux dire. Il ne faut pas non plus que le fait que les journaux s'intéressent à Marine Le Pen, et notamment les journaux adverses, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a quand même beaucoup en pourcentage, que obligatoirement, ça veut dire que Marine Le Pen est un agent manipulé par les médias de gauche. Bon, il faut arrêter cette théorie-là. Je suis une jeune femme. Il est vrai que dans un mouvement qui a, de manière scandaleuse d'ailleurs, à qui on a apposé une image violente, machiste, eh bien c'est un élément qui est considéré comme un élément nouveau, y compris d'ailleurs de la part de la presse étrangère. Voilà, je crois, ce qui suscite aussi...
C'est pas du tout le sens de ma question. Il est évident, je pense pas...
Non, mais parce que je me suis posé la même question que vous, monsieur Devecchio. Pourquoi j'étais éreinté par la presse amie et pourquoi plus de mal de moi dans la presse amie que dans la presse ennemie.
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on parle plus de vous dans la presse ennemie que dans la presse amie, et je crois que la façon dont parle de vous la presse ennemie est une façon justement de vous prêter des propos ou de vous prêter des intentions qui sont de nature... Par le fait que, enfin, on en a l'exemple récent avec le papier de Libération qui a provoqué un démenti de Jean-Marie Le Pen.
Que Libération n'a toujours pas publié depuis le 11 septembre.
Mais donc, il y a à l'évidence l'utilisation de propos qui vous sont prêtés ou qui sont prêtés à d'autres personnes de votre entourage ou du mouvement, utilisation en vue de provoquer des tensions à l'intérieur du mouvement.
Mais oui, mais bien sûr, il est tout à fait évident que la presse ennemie va tenter de créer des divisions au sein du Front National. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'empêcher notre ascension vers le pouvoir. Et qu'ils ont tenté, et ils ont réussi d'ailleurs à le faire il y a un certain nombre d'années, ils essayent de recréer les mêmes conditions d'un éclatement interne, sauf que je pense qu'ils sont très mal partis et qu'ils n'arriveront pas à leur fin, en tout cas, ni avec moi, ni avec Bruno Gollnisch, ni avec Karl Lang, ni avec Jean-Marie Le Pen.
Et avec votre belle-mère, Jeannine Le Pen, là, vous avez lu Le Monde du 23 septembre, et je voudrais vraiment, on est obligé de vous demander votre réaction, quand monsieur, alors, Christiane Chombeau est en vacances, je crois, pour, elle a un an sabbatique pour écrire un livre.
Six mois, je crois.
Ah.
C'est fini, hein.
Alors, c'était
Eli
Barthes.
Vous l'avez lu?
Ah, je sais, non, bien sûr que non, je dis son congé est fini.
Alors, c'est monsieur Eli Barthes qui prête à Jeannine Le Pen les propos suivants. Elle estime que pour l'instant, Jean-Marie lâche la bride à sa fille, mais le moment voulu, il va la resserrer comme le cavalier devant l'obstacle. Marine est encore jeune, il faut lui laisser le temps d'acquérir la sagesse.
C'est comme le cavalier pour sauter l'obstacle. Vous savez que lorsqu'on reprend les rênes, c'est pour sauter l'obstacle. Si vous partez les rênes lâches, vous, en général, vous sautez l'obstacle, mais sans cheval.
Une remarque. C'est pas... Croyez surtout pas que c'est pour mettre en difficulté qu'on lit cette...
Non, c'est parce qu'on en tombe.
C'est parce que,
les bras nous en tombent.
On est en face exactement de la manœuvre que vous indiquiez à l'instant. C'est-à-dire, voilà des gens qui prêtent des propos à quelqu'un. Moi, je connais un tout petit peu Jeannine Le Pen. Je ne pense pas qu'elle ait dit ça. Je crois qu'on a dû solliciter des propos qu'elle a tenus dans un autre contexte, voire même les inventer purement et simplement, comme ça s'est produit pour le papier de Libération. Mais le fait est que, et vous n'en êtes absolument pas responsable, ça c'est bien clair, mais le fait est que ce petit jeu devient la règle.
Oui, mais c'est la règle. C'est la règle partout.
Alors, c'est aussi, bien sûr, mais c'est aussi la sanction d'une réaction. Enfin, je vous demande votre avis. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la sanction d'un phénomène qui remonte déjà assez longtemps et qui est le fruit du sentiment d'exclusion dans lequel étaient les gens, les militants, les sympathisants et les dirigeants du Front National, qui avaient l'impression qu'ils n'avaient absolument pas accès aux médias. Et du fait de votre présence, du fait de l'image que vous avez, vous naturellement vous provoquez la curiosité des médias, vous provoquez même une certaine sympathie, une sympathie, oui, disons le mot, de certains médias qui ne sont pas des médias amis, et... À ce moment-là, on a l'impression que enfin le Front National a accès aux médias. Mais je me demande si le fruit de cette accession, on en voit l'exemple là dans le papier du Monde, est pas un fruit blé et un peu pourri aussi.
Oui, mais ça c'est un peu la règle du jeu aussi des journalistes qui essayent de créer des dissensions. Moi, je crois d'abord que notre électorat est assez au fait de la politique pour faire la part des choses. Et puis, s'il faut mettre tout ça dans la balance, eh bien moi je trouve que le résultat est plutôt positif. Voilà, je pense que même s'il existe un risque de déstabiliser un certain nombre de personnes, je pense que dans la presse, le ton a changé à l'égard du Front National et tout ce qui est pris, voyez-vous, n'est plus à prendre, notamment en termes d'image. Nous nous rapprochons petit à petit, la route est encore longue, dans les médias de notre véritable image, nous arrivons à faire passer des messages politiques aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a encore 2 ans, c'était quasiment impossible. Alors, oui, certes, il y a probablement des désavantages à cette situation, mais je pense que, en tout cas aujourd'hui, la balance est plutôt positive.
Alors, une autre question, c'est qui vous concerne pas directement, mais qui concerne... Oui, Emmanuel.
Non, je pose une question très simple, c'est est-ce que vous pensez pas, parce que Marine, vous nous dites que depuis 2 ans tout se passe mieux, en gros, qu'on est relatif, vous êtes accepté par les médias, qu'on peut s'exprimer, et que le Front National réintègre d'une certaine manière l'arc politique classique. Il y a quand même eu 15 jours d'hystérie collective, qui ont été pires que la Libération, et où on a vu le président du Front National, les membres du bureau politique, les électeurs, la famille de Jean-Marie Le Pen, l'intégralité passer par des nationalistes. nationaux-socialistes qui allaient rouvrir les camps de concentration. Moi, je vous pose une question. Si vous faites un bon score en Île-de-France, ou si votre père fait un bon score en PACA, comme il y a deux tours, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va relancer les grandes orgues et à ce moment-là dire que le Front National présente un grand
danger ? Mais probablement. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Les électeurs, vous savez, sont loin d'être idiots lorsqu'ils lisent la presse qui donne une image, somme toute, en tout cas qu'il y a une gestion modérée d'un mouvement alors qu'avant c'était l'hystérie et que du jour au lendemain on se remet à faire l'hystérie. Moi je crois que le second tour de l'élection présidentielle c'était un peu le fusil à un coup.
Oui.
Alors ils tenteront de le refaire, mais à mon avis ils le referont comme d'habitude trop, de manière exagérée, et plus ça va, et moins les électeurs tombent dans le panneau.
Là, je crois que maintenant, on peut mesurer, enfin, c'est mon sentiment, hein, l'impression que j'ai, c'est que maintenant, on peut mesurer les effets positifs de l'hystérie de l'entre-deux-tours. Parce que, vous savez, c'est la fameuse histoire du loup.
Hein, du berger qui crie au loup.
Qui crie au loup. Ils ont crié au loup. Bon, ils ont pensé... Et puis, il n'y a rien, il ne se passe rien. Et c'est vraiment une situation... Après ça, quand on voit le résultat, ils ont porté Chirac au pouvoir avec...
Un score de président africain,
de roi nègre, comme on dit, avec 82% des suffrages. Et maintenant... Il faut qu'il nous explique que c'est le plus minable, que c'est tout ce qui fait mal, que son entourage est raté et tout. Alors, marche qu'un coup, ça, effectivement, c'est le fusil.
Oui, puis je pense qu'il y a un autre élément, c'est que tout ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, ce qu'a prêché Jean-Marie Le Pen dans le désert pendant 30 ans, sous les huées, sous les lazis, sous les insultes, eh bien, est en train de se réaliser. Je veux dire, ce gouvernement qui parle beaucoup mais qui ne fait rien, a quand même repris à son compte des pans entiers du discours de Jean-Marie Le Pen sur l'insécurité, sur l'immigration, et aujourd'hui, ils sont même en train de tenter de sortir de l'Europe par la petite porte. Et ils sont en train de critiquer l'euro. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, et moi j'ai proposé à M. Raffarin de faire une grande conférence de presse pour dire que Jean-Marie Le Pen avait raison. Alors ça va être beaucoup plus difficile après de remettre en route la diabolisation alors qu'ils ont tenté de prendre possession, sinon de l'action, mais à tout le moins d'un certain nombre de thèmes défendus par Jean-Marie Le Pen pendant 30 ans, contre eux. Contre eux.
Sur l'immigration, justement, puisque vous employez le mot, il y a quelques années, vous aviez, en tant qu'avocate, c'était votre devoir et votre travail, vous avez pris la défense d'un immigré clandestin. Et quelle est votre position, à vous, personnellement, sur la question de l'immigration ? Est-ce que vous pensez, on ne peut pas la résumer en deux mots, mais est-ce que vous croyez, comme ça a été dit, ça fait partie du programme du Front pendant des années, que l'immigration doit cesser et qu'on doit inverser les flux migratoires, ou est-ce que ça vous paraît maintenant, la situation vous paraît telle que ça n'est plus envisageable?
Vous venez de parler d'immigration excessive et incontrôlée au Financial Times.
Oui, non, mais je crois que l'immigration est plus que jamais le pôle de difficulté autour duquel tournent tous les grands problèmes français. Je suis tout à fait évidemment persuadé de cela, que ce soit elle crée évidemment une asphyxie, elle n'est pas la seule responsable de cela, mais c'est une cause majeure d'une asphyxie économique, d'une asphyxie de logement. Alors oui, évidemment, il faut aujourd'hui récupérer d'abord la maîtrise de nos frontières, parce que nous ne les avons plus. Bon, il faut quand même revenir aux sources de l'immigration. Parce que ceux qui défendent l'immigration la défendent toujours sous son aspect le plus utopique et le plus joyeux. C'est l'immigré qui vient travailler, apporter une valeur ajoutée à la sueur de son front. Mais nous ne sommes plus du tout dans ces conditions-là. Nous sommes dans une situation où 5% des immigrés qui rentrent légalement, je dis bien légalement parce que je mets à part toute l'immigration clandestine que nous sommes en état incapable de chiffrer. 5% viennent avec un contrat de travail. Par conséquent, ils sont évidemment une charge, un poids pour la communauté nationale qui assume l'éducation des enfants, qui assume le soin dans les hôpitaux et tout le reste. Bon, d'ailleurs, on ajoute au fur et à mesure, on a mis en place une immigration de peuplement, puis une immigration économique, et maintenant on met quasiment en place une immigration sanitaire. Hein, puisque chaque personne qui est étrangère, qui a un problème sanitaire, même s'il est en situation régulière, ne peut pas être renvoyé dans son pays. Eh bien, nous voyons les conséquences aussi que ça entraîne en matière d'insécurité, et puis en matière de chômage, et en matière de déficit considérable, notamment de notre sécurité sociale. Parce que moi, j'ai entendu accuser les médecins en disant « Oui, c'est à cause de vous, les généralistes, les 2 euros que vous prenez de plus par consultation, que la sécurité sociale a un tel déficit. » Bien sûr que non. Ça représentait moins de 10% du déficit. C'est tout à fait évidemment la couverture maladie universelle. Et universelle, là, le terme, honnêtement, est bien choisi.
Sans vous substituer à votre père, qui, je suis désolé, je pense a de meilleures chances d'être élu président de la région PACA que vous de la région Île-de-France.
Oui, j'admets, oui.
Bon, ça sera un joli doublé quand même.
Est-ce que vous pensez que votre père appliquera la préférence nationale si élu président de la PACA ?
Il vient de le dire.
Non, mais attendez. Il ne pourra pas le faire, que les choses soient claires. On peut tenter de mettre en place les conditions d'un accès privilégié des Français et des ressortissants de l'Europe, mais on a vu ce que ça donnait. Ça vous entraîne tout à fait immédiatement devant les tribunaux correctionnels avec des inéligibilités. Et moi, en tout cas, l'avocate que je suis, je dirais à Jean-Marie Le Pen d'attendre d'être président de la République, ce qui, à mon avis, va arriver relativement vite, pour réinscrire dans la Constitution la préférence nationale, dont je rappelle quand même à vos auditeurs qu'il y a au moins 2 grands groupes qui en bénéficient et qui sont dans lesquels on trouve pas mal de réservoirs de gauche. Ce sont la fonction publique, hein, qui bénéficie de la préférence nationale, et c'est l'exception culturelle.
Oui.
C'est-à-dire l'audiovisuel, les films, etc., qui sont les premiers à nous lancer des pierres et qui sont les premiers à bénéficier de la préférence nationale, parce que l'exception culturelle française, c'est la préférence nationale.
Jean-Marie Le Pen vient de déclarer, je ne suis pas le seul à l'avoir entendu, qu'il l'appliquerait dans toute l'étendue des pouvoirs qui seraient les siens, et qu'il affronterait les sanctions et les conséquences.
Oui, mais s'il en assume les sanctions, soyons clairs, s'il en assume les sanctions, il risque l'inéligibilité. Moi, je crois que Jean-Marie Le Pen doit se préserver parce que nous l'attendons, nous avons besoin de lui, la France a besoin de lui en 2007 à l'élection présidentielle. Alors, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place, ce que je dis dans les termes des compétences de la région et peut-être de la capacité d'expérimentation, pourquoi pas, puisque cette loi contre laquelle nous nous sommes battus va être mise en application et que les régions vont avoir une possibilité d'expérimentation, pourquoi pas expérimenter effectivement des mesures qui tendraient à, mais en tentant tout de même de ne pas terminer dans le tribunal correctionnel. N'importe qui d'autre que lui, oui. Mais lui, il n'a pas le droit, à mon avis, de le faire, parce qu'on a encore besoin de lui après.
J'attire sur votre attention sur la masse de messages que Victoria est en train de trier.
Comment on fait? Il y a 2 solutions. Ou vous répondez brièvement à chaque message, ou vous répondez globalement.
Non, c'est qu'il y en a trop, Serge. Si on répond globalement, ça va.
Alors, vous réagissez. Voilà.
Si vous avez envie de répondre, vous répondez. Vous sans ça, on passe. Alors, un auditeur. La diabolisation ne prend plus parmi le peuple. C'est pourquoi les adversaires du Front National utilisent d'autres techniques, comme par exemple de soi-disant dissensions.
Voilà, je suis d'accord.
Êtes-vous pour la révolution nationale? Vos propos ne sont pas assez énergiques. Si nous voulons une droite ferme qui puisse relever la France.
Bon. Nous n'êtes pas pour la révolution.
Je crois qu'on n'a jamais été pour la révolution. Personne n'y croit.
Un auditeur confirme, c'est toujours cette révolution française qui traîne chez nous. Un autre auditeur, pouvez-vous nous dire quels sont les membres du Front qui se présentent au régional en Île-de-France? Combien faut-il d'élus Front National pour constituer un groupe à l'exécutif régional?
Alors, les têtes de liste départementales du Front National seront Jean-François Jalques, Martial Bild, Michel de Rostolan, j'ai oublié personne, Dominique Joly, qui est un jeune qui vient de reprendre la Fédération du Val-de-Marne, Jean-Michel Dubois, et je vais en oublier, Roger Olyndre, bien sûr,
et
moi-même.
Et Marine Le Pen.
Et voilà, je crois que j'en ai oublié un, oui.
Vous êtes tête de liste dans quel département?
Dans le 92.
Une auditrice, si vous souhaitez que les journaux ennemis ne parlent pas en mal de nous, ou essaient de nous diviser, arrêtez de leur accorder des interviews. Nous remarquons qu'il n'y a jamais de propos désagréables mis dans la bouche de M. Gollnisch.
Oui, d'accord, mais enfin, là, excusez-moi d'intervenir, c'est que si on peut aussi s'arrêter de faire de la politique. Comme ça, on n'aura pas d'attaque, on ne sera pas méchant avec nous et on ne risquera pas de déstabiliser les uns ou les autres. Moi, je crois qu'il faut parler parce qu'on le doit à nos électeurs. Il faut que nous soyons... Nous ne sommes pas... Moi, je ne parle pas pour moi-même. Nous sommes les représentants des électeurs. Nous sommes leurs porte-parole, tous, autant que nous sommes. Par conséquent, nous nous devons de pouvoir faire en sorte que nos idées, évidemment, aient le plus d'audience possible.
Une auditrice, choquée par les propos dits sur notre radio, pense que tous les enfants ont droit à la vie et est contre l'avortement. Une autre auditrice...
Mais, pardon, mais je veux intervenir. Je vois qu'il n'y a aucune opposition entre ce qui a été dit. J'ai bien compris la réponse de Marine Le Pen. Elle est aussi contre l'avortement, si j'ai bien compris. Mais elle considère que c'est un phénomène social qui doit être géré politiquement. C'est une position qui est parfaitement respectable. Ça ne veut pas dire qu'elle est pour. Vous avez dit tout à l'heure, Marine, que personne n'était pour. C'est pas tout à fait exact. Il y a des gens qui sont réellement pour. Il y a par exemple une dame qui s'appelait Margaret Sanger, qui est la fondatrice du planning familial, qui elle, et les gens du planning familial d'ailleurs au niveau le plus élevé de cette organisation, prêchent contre la contraception, pour l'avortement, d'une façon ouverte, affichée et publique.
Et les programmes également de diminution des naissances voilà, qui sont c'est financés par l'ONU, avec stérilisation des femmes, etc. Voilà,
ça donne une autre dimension.
Le choix d'un seul enfant en Chine, etc. Il y a une politique évidente de malthusianisme.
Un auditeur, la question de l'avortement est une question de principe. Il faut savoir si la loi trouve moral de tuer un enfant à naître, être humain, un être humain innocent. Envisager de donner une voiture ou un frigo à une femme pour faire diminuer les avortements est une plaisanterie.
C'est un peu une caricature.
Ça. Oui, c'est un peu caricatural parce que, vous savez-vous, moi j'en ai rencontré des femmes qui se retrouvent vraiment dans une situation économique extrêmement difficile qui ne peuvent pas assumer un enfant supplémentaire. Je crois qu'il ne faut vraiment pas leur jeter la pierre.
C'est là qu'il y a un vrai scandale. Oui. Je crois que c'est là le scandale. C'est le fait que
les femmes n'ont plus le choix.
Comme la France aujourd'hui, où il y a des milliers d'immigrés qui rentrent tous les jours, en tout cas des centaines d'immigrés qui rentrent, des milliers on peut le dire, qui rentrent tous les jours en France, on a les moyens de les accueillir, de les nourrir, de les héberger, de les enseigner, de les soigner. Et on n'a pas les moyens d'accueillir, de nourrir, d'héberger, de soigner des enfants qui naissent en France. C'est ahurissant.
Mais je vais vous dire honnêtement, sur ce sujet, parce qu'on ne va pas quand même y passer l'émission, sur l'avortement. Moi, j'ai ma sensibilité. J'ai le courage de l'exprimer, je l'ai dit. Mais il y a au Front National beaucoup de gens qui ont la position de ce monsieur. Et je pense qu'il s'identifiera sans aucun problème à d'autres dirigeants. Mais moi, voilà, c'est ma sensibilité. Je l'ai dit, je l'ai expliqué. Mais encore une fois... voilà, je pense que personne, sauf quelques dérangés mentaux, ne peut se réjouir du nombre très, très important d'avortements dans notre pays.
Ce qui est sans doute évident, c'est qu'effectivement, en tout cas politiquement, l'élection ne se fera pas sur cette question.
Non, c'est clair, sûr, mais bon, on n'est pas... Le sujet, c'est pas tellement l'élection. On va parler de l'élection, on va en parler tout de suite, mais je crois que le Front National a cette spécificité de ne pas être un parti électoral. C'est le rassemblement de gens qui espèrent du mieux pour leur pays. C'est un rassemblement de patriotes qui aiment leur pays et qui veulent que les choses aillent mieux, vraiment mieux en profondeur. Et donc c'est un parti qui doit... Enfin, c'est un mouvement, d'ailleurs, c'est pas un parti, à mon sens, qui doit... avoir un discours, disons-nous, une morale, quoi, éthique.
Pour les
ça oblige à parler de ces questions, c'est tout. C'est
pas... Pour les auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur, j'indique que maintenant que Victoria a lu trois messages, on lui en apporte une quarantaine d'autres.
Et puis, sur les questions qu'on vient d'évoquer...
Un auditeur... mais je me les garde. Un auditeur a posé la question à laquelle vous venez de répondre. La position que vous exprimez à propos de l'avortement est-elle votre position personnelle ou celle du Front National? Si l'on n'obligeait pas ceux qui...
Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen a quand même été amené à intervenir sur cette question pour dire qu'effectivement, il lui apparaissait qu'une politique de promotion de la famille, d'aide aux naissances, lui paraissait plus applicable qu'une politique coercitive.
Un auditeur, si l'on n'obligeait pas ceux qui veulent adopter un enfant à aller le chercher au Brésil ou au Vietnam, on éviterait bien des avortements.
Oui, le Front National est pour l'adoption prénatale.
Est-ce qu'on peut sauter les messages sur le sujet de l'avortement, Victoria? Il y en a 150 devant vous.
Non. Non, c'est pas ça, attends. Ah, ben zut. La diabolisation, c'est comme une digue. Quand elle est franchie, cela submerge tout.
Oui, j'ai comparé la diabolisation au mur de Berlin. J'ai dit la diabolisation, c'est notre mur de Berlin. Le jour où on arrivera à la faire tomber, nous aurons une voie royale tracée devant nous.
Un auditeur, que pensez-vous de la discrimination positive chère à Monsieur Sarkozy?
Je suis archi contre. C'est honnêtement la manière de défendre la politique toujours immigrationniste du gouvernement.
Mais il y a une formidable tromperie aussi, là, parce que les gens qui ont été portés au pouvoir n'ont pas été élus sur cette disposition-là. Il n'a jamais été question dans aucune campagne de l'UMP d'appliquer la discrimination positive.
Oui, mais c'est jamais, quoi, jamais, jamais. On sait même plus ce que c'est. L'UMP, c'est un espèce de magma de gens qui sont d'ailleurs souvent pas d'accord entre eux. Il y en a des pour l'Europe, des contre l'Europe, des pour la peine de mort, des contre la peine de mort, des pour l'immigration, des contre l'immigration. C'est un magma informe. Voilà. Oui. Donc moi d'ailleurs j'appelle entre nous les électeurs de l'UMP à définitivement leur claquer la porte au nez et à venir dans des mouvements qui eux auront le courage d'appliquer les promesses qu'ils font, ce qui n'est pas le cas de l'UMP, c'est le moins qu'on puisse dire.
Pourquoi le Front National ne réagit-il pas plus fermement au refus des autorités à donner un lieu pour les BBR?
On peut difficilement réagir plus fermement que ce que nous avons fait. Nous avons saisi la justice, nous le faisons avec nos moyens. Alors c'est encore un peu le pot de terre contre le pot de fer.
Et puis ce qu'il y a, c'est qu'en général, ce genre de procès est assez long.
Oui, c'est
et même si on le gagne, on lui donne.
C'est-à-dire qu'en 2010, il y aura ils déclareront illégal l'interdiction des BBR de 2004.
C'est ça.
Un auditeur. Vraiment, que pensez-vous de la loi Jospin, toujours en vigueur, sur les armes à feu? Votre père avait répondu à une association de tireurs et collectionneurs qu'il trouvait légitime d'avoir une arme pour se défendre.
Ah, c'est-à-dire qu'on a mis en place une loi où maintenant les seuls qui ont des armes, ce sont les voyous.
Question posée au ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, lorsqu'il soutenait Chirac en 90-91. Faut-il soutenir les délinquants ou leur faire peur? Il avait répondu, il faut les soutenir. Une auditrice, pourquoi avoir déclaré il y a quelques mois « Je respecte l'islam en tant que religion des Français, de Français ».
Non, j'étais dans le cadre d'un débat avec sur un livre qui s'appelait « L'une voilée, l'autre pas » sur l'islam. Je n'ai pas déclaré ça comme ça. Et elle me dit « Est-ce que vous respectez l'islam ?» Je dis « Vous êtes française, je respecte votre religion. » Je dis « À partir du moment où vous êtes française, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas me brûler par terre. »
Mais même si elle n'était pas française, on peut respecter l'islam.
Oui, non, mais je veux dire, je ne vois pas en quoi cette déclaration peut heurter, choquer. J'ai toujours répété d'ailleurs que la France était un pays d'histoire, de culture catholique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient y venir, hein, parce qu'entre nous, je trouve que beaucoup de ces immigrés pourraient peut-être aller immigrer dans des pays où la loi islamique est en vigueur. Il y a beaucoup de choix, hein, entre nous. Il y a beaucoup de pays où la loi islamique, de la plus souple à la plus ferme, je vois pas bien pourquoi il faudrait qu'ils choisissent la France. Surtout si c'est pour se constituer en groupe de pression politique et vouloir à toute force changer la loi française pour qu'elle s'applique à la religion islamique.
Hier, sur France 3, dit cet auditeur, j'écoutais Vozel, président de la PACA, qui déblatérait sur le Front National, qu'il traitait de raciste et d'antisémite. Il s'est même vanté de s'allier au groupe Attaque, mouvement subversif.
Non, mais ça, c'est intéressant dans la mesure où ça montre bien. Quand ces gens-là ont le caleçon braineux, ils essayent d'attirer l'attention à l'extérieur. Et Vauzel, en ce moment, est très, très, très embrainé par l'affaire de sa piole d'hôtel. Ah, quand même, à 3500 francs la nuit, hein, c'est pas du petit sou.
Ils étaient peut-être nombreux.
C'est possible d'ailleurs. Bon, alors donc, comme il est très embêté par cette histoire, il essaye de dégager de beauté en touche, comme on dit. Alors, d'un seul coup, il se souvient qu'il y a un épouvantable parti fasciste qui menace les libertés en France et tout. Et il fait tout son cinéma là-dessus. Mais en fait, c'est tout simplement une façon de se débarrasser d'un sujet qui l'enquiquine. Parce que c'est vrai que son argumentation de dire « j'ai loué pendant 4 ans, une fois par mois, une chambre pour ne pas avoir à louer d'appartement », moi je veux bien, mais enfin, la chambre, il l'a louée, encore une fois, 3500 francs. Donc, c'était probablement pas dans un deux hôtels, dans un deux étoiles ou un.
Vous me dites ça en Île-de-France, alors qu'en Île-de-France, je veux dire, les contribuables franciliens ont terminé de payer l'année dernière les 10 ans de marchés publics des lycées corrompus avec 5% de corruption, donc 5%, ils ont payé 5% de plus que ce qu'ils auraient dû, ça se chiffre en milliards, et ils ont terminé de payer en 2002.
Mais à l'époque, on payait aussi, d'ailleurs, il faut se souvenir quand même aussi, le personnel de maison de Michel Giraud, les voitures de fonction, toute une série de vice-présidents, toutes les réceptions, les maisons de campagne, etc.
Alors, je tiens à dire d'ailleurs que je suis scandalisé, excuse-moi Emmanuel, je suis scandalisé de la manière dont les journaux télévisés font état du procès de M. Juppé. Parce qu'il est dit, comme si c'était une évidence, que la corruption, que c'est les entrepreneurs payaient à tous les partis politiques. Eh bien
oui,
non,
j'ai entendu ça, oui.
À tous les partis politiques, sauf le Front National. Et je crois qu'il faut le rappeler. Toujours et encore, tous les mouvements ont peut-être touché, mais le Front National, lui, jamais.
Un auditeur, lu dans Rock et Folk au sujet de l'affaire Cantat.
Vous voyez qu'ils ont des bonnes lectures, nos auditeurs.
Voici ce que déclare Virginie Despentes. Commençons.
Ah oh bah.
Oui, c'est charmant. Commençons par admettre. Oui, mais justement, c'est intéressant. Commençons par admettre tout de même que c'est un petit peu choquant, quoi, de tuer sa bonne femme à main nue. Encore, les gaillards se seraient jetés sur Sarkozy, Maigret ou la gamine Le Pen. On aurait mieux compris le concept. Cela ne mériterait-il pas une plainte?
La femme battue va répondre.
Je trouve ça affligeant.
C'est la femme abattue, là.
Hein. Oui, je trouve ça affligeant et voilà. Ça ne m'étonne pas, d'ailleurs, de cette madame Despentes qui n'a probablement pas compris un traître mot de ce qu'elle venait de dire.
Il faut quand même qu'elle gagne sa vie. Elle
fait autre chose.
Que pensez-vous de la proposition de madame Boutin de donner 300 euros par mois à toute personne résidant en France de la naissance à la mort?
Eh bien, voyons. Et avec l'argent de qui, le sien? Ah, ou celui des gens qui travaillent toute la journée.
600 euros, ce serait mieux.
Parce qu'à la limite, elle aurait dit 600 euros par français.
Ah oui, mais alors...
Hein?
Vous savez ce que ça coûte, ça?
Mais je pense que si on passait à 300 euros, ça coûterait beaucoup moins cher. Hein, de qu'actuellement.
C'est sûr, 300 euros et après ils se débrouillent.
Bon, on va peut-être suspendre les questions parce que je voudrais donner à
Marc-Antoine
le temps de nous édifier sur... À parler de la campagne, la façon dont vous allez mener votre campagne, de la façon dont vous allez orienter votre programme, enfin quel programme vous allez proposer aux électeurs d'Île-de-France. Quel est le moteur principal de votre campagne?
Bah, vous savez, moi je fais une campagne de proximité. D'abord parce qu'au Front National, on ne sait pas faire autre chose. Vous me demandez qu'est-ce que vous allez faire une campagne de terrain, mais nous on ne sait pas faire autre chose qu'une campagne de terrain. À la différence de M. Copé qui a indiqué que son projet c'était d'écouter les gens et de discuter avec eux, alors qu'il est quand même ministre et élu de mots, donc on pourrait penser qu'il sait déjà ce qu'il en est, eh bien nous n'avons pas besoin de nous mettre à discuter avec nos compatriotes, nous savons ce qu'ils attendent de nous. C'est une campagne qui, à mon avis, sera axée prioritairement, je pense, sur, d'une part, l'emploi et le social, et d'autre part, l'immigration et l'insécurité. Pourquoi l'emploi et le social? Parce que les chiffres sont catastrophiques. Parce que nous allons droit dans le mur, et que comme nous n'avons plus les leviers pour redresser la situation, parce que nous les avons donnés à l'Europe, eh bien, la situation économique va considérablement s'aggraver. Il faut quand même savoir que les chiffres font peur, sont épouvantables. Je veux dire, il y a 28 000 faillites le premier semestre 2003. Il y a un chômage qui explose, étant entendu que nous sommes sur des chiffres officiels et que ne sont pas inclus dans ces chiffres les RMistes, ceux qui travaillent une heure par mois, etc.
Les intermittents du spectacle.
Oui. Il faut doubler le chiffre du chômage à peu près.
Il faut probablement le doubler, mais surtout, il faudrait peut-être aussi le rapporter à la population chômable. Parce que si on enlève les fonctionnaires qui n'ont pas de risque de chômage, eh bien nous arrivons à des taux de chômage qui sont fantastiques. Bon, je ne parle pas de la dette, je ne parle pas des déficits qui sont considérables, et la région Île-de-France se porte particulièrement mal. Hein. Elle crée deux fois moins d'entreprises qu'en France. Le PIB par habitant a baissé de 10% en l'espace de 5 ans. Voilà, c'est une région qu'on fuit, eh bien il faut à nouveau la rendre attractive, il faut proposer, à mon sens, aux électeurs une véritable politique de courage.
Vous savez, moi, je ne plaisante pas du tout en disant ça. J'ai beaucoup d'admiration, pour les gens comme vous, qui s'engagent dans le combat politique, comme vous le faites. Les gens du Front National, tout spécialement. Parce que ce à quoi vous me faites penser, c'est des gens qui seraient dans un autocar, qui est en train de dévaler une pente à 200 à l'heure. Il n'y a plus de frein, le volant est détaché, les quatre pneus sont crevés. Le chauffeur est complètement bourré et le type du Front National tape sur l'épaule du chauffeur en disant « passe-moi le volant ». Bon, moi j'aurais qu'une envie, c'est de sauter de l'autocar. Mais il faut être quand même un peu fou pour pouvoir vouloir assumer les responsabilités. Parce que la situation que vous avez décrite, c'est ça, c'est la vérité. La France est un pays qui est en train de crever littéralement. Et de dire « moi j'ai envie de m'engager là-dedans ». Pour que le résultat de 50 ans de conneries, de voyous, d'escrocs et de mafieux me tombe sur la tête d'un seul coup et que je paye la note, comment, psychologiquement, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça?
Moi, je crois que c'est l'amour immodéré de la France. C'est l'amour immodéré de notre pays. C'est que nous ne voulons pas céder au désespoir. Voilà. Je pense qu'il y a toujours un espoir. Tant qu'il y a un peuple français, il y a toujours un espoir. Or, ce peuple français, il existe. Aujourd'hui, il doit prendre son avenir en main. Il doit en tout cas récupérer les rênes de son avenir. On nous a assez bassinés entre nous avec la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes pour qu'aujourd'hui, on puisse s'en servir contre une Europe qui devient super arbitraire, super impuissante, super technocratique et qui ressemble de plus en plus, il faut bien le dire, à un système soviétique. Alors voilà, je crois que c'est l'espoir et l'amour qui nous font avancer et je pense que les électeurs français finiront par nous donner ces rênes. Ouais. Parce qu'ils sauront que personne d'autre que nous n'a la capacité de tirer la France de l'abîme. C'est même plus une ornière, c'est un abîme.
Mais est-ce que vous pensez que une telle position est tenable après le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002? Parce que, si vous voulez, beaucoup de gens, je pense, autour de ce micro, dans les journaux amis, au Front National, pensaient toujours que le jour où il y a une réelle possibilité, un choix qui sera offert aux Français, les Français pourraient décider. Ce choix leur a été proposé. Jean-Marie Le Pen a été candidat à la finale de l'élection présidentielle, opposé à un président médiocre qui n'avait rien fait pendant 7 ans et qui le candidat menteur, le candidat voleur. Bon. Et on a vu que pratiquement le Front National avait piétiné et n'avait pas réussi à augmenter en pourcentage. Est-ce que vous pensez qu'à la lumière, il faut quand même en tirer les conséquences, de voir qu'en fait ce peuple français est sans doute mythique parce qu'il refuse de se prendre en main et on voit pas très bien pourquoi il se prendrait en main cette année alors qu'il a pas voulu se prendre en main l'année dernière?
Mais hélas parce que à mon avis les choses ont beaucoup changé depuis l'élection présidentielle et que toute une série de personnes commencent à être les victimes directes des maux qu'hier leurs voisins subissaient. Tant que leurs voisins les subissaient, ça allait encore. Mais à partir du moment où ils commencent à en être les victimes directes, eh bien ils se rendre compte qu'il va falloir changer de vote et cesser de voter soit pour l'UMP, soit pour l'UPS, ce qui de toute façon revient strictement au même. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les grandes lignes tracées par les socialistes, l'UMP n'en est pas sortie. Que ce soit les 35 heures, la loi Guigou, la politique d'immigration, ils suivent avec une régularité de métronome la politique socialiste. Bon. Donc moi je crois toujours qu'il peut y avoir une prise de conscience, mais j'espère que cette prise de conscience ne se fera pas à la lumière d'une crise économique extrêmement grave qui, hélas, menace.
Madame Le Pen, je vous remercie. Je vais quand même vous poser une ultime question, qui est la question obligatoire de rigueur dans ce genre de débat. À quelle hauteur mettez-vous la barre de votre succès ou de votre échec aux prochaines élections?
Écoutez, nous avions fait en 1998 15% au niveau national. C'était un bon cru d'ailleurs, les élections régionales de 1998. Ben voilà, je crois qu'il faut faire mieux et puis je crois surtout qu'il faut gagner la région PACA. Il faut démontrer aux électeurs que ce qu'on leur raconte depuis des années sur Jean-Marie Le Pen, c'est du bidon, que la mer ne va pas se retirer, que les montagnes ne vont pas s'écrouler, que les oiseaux vont continuer à voler et qu'enfin il y aura
ils ne seront pas les seuls à continuer
à voler. Voilà, et qu'enfin il y aura une donneur d'espoir dans ce pays et qui servira bien évidemment de marche aux élections présidentielles suivantes.
Ne refusez pas de faire un pronostic sur l'Île-de-France, c'est ce qu'on essayait de vous faire dire.
Non, mais moi j'espère faire plus que 16% qui était le score de l'Île-de-France la dernière fois. Et je pense que nous avons peut-être la capacité d'arriver placé. Vous savez, quand on a un petit peu, quand on est comme ça sur le terrain, on a l'instinct. Et moi je vous dis que le vent pousse dans le bon sens.
Ça, c'est la fille du marin qui parle. Pas pour rien qu'elle s'appelle Marine. Merci. Vous reviendrez nous voir.
Merci à vous. Ça a été trop pénible. Non, ça a été très sympathique.
Merci bien, Marine.
L'oxygène, il serait capable de me faire tourner mal. Moi, c'est calme en temps normal. J'en ai assez de voir leur tête, ils se sont trop payés. La mienne, ça ferait du bien que ça s'arrête avant que vienne la haine. Je sens monter du tréfonds de mon être la sanguinaire fusion, le cuillère sans pardon de mon cœur. Si j'étais pas si réfléchi, ça se terminerait en bouche. Si j'étais pas si bon, je crois que j'irais plus vite. Toujours à la télé. Les mêmes tarés, les mêmes menteurs qui passent au 20h. Dans les journaux, les mêmes ragots, les mêmes sornettes dans les cassettes. À France Info, les mêmes escrocs, à France Inter, les mêmes fonceurs et des rétus de Canal Plus. Toujours cette sale engeance qui fait perdre patience. Il va falloir qu'on pense à programmer la vengeance. Si j'étais pas si réfléchi, ça se terminerait en boucherie. Si j'étais pas si modéré, je crois que j'irais tous les clés.
Bon, ben vous avez reconnu la signature de la radio, c'est Radio Courtoisie que vous entendez. Franck, il est très désapprobateur finalement. Hein. C'est pas le ton général de Radio Courtoisie, mais c'est parce qu'on a fait jeune ce soir.
Oh, quand même, vous exagérez un peu, je suis ouais. Comme Franck, moi. Mais quoi, moi, je pensais, ben, puisque c'est jeune, ça ne me concerne plus.
Mais Franck, ça le concerne, lui, il a 18 ans, en tout cas. Bien, alors, nous avons notre correspondant. Il faut que je chausse. Il faut que je chausse le casque. Loïc Le Ribaud.
Oui, bonsoir.
Comment allez-vous?
Bien, ma foi, aussi bien.
Pardon. Bon, je vais avoir besoin de G5, je sens ça. Alors, pourquoi avons-nous cette conversation? Ben, pour plusieurs raisons. Vous savez, je rappelle que Loïc Le Ribaud a fait l'objet d'une émission complète il y a quelques mois maintenant. Il avait été interrogé par un de nos amis. C'est terrible, moi, je suis menacé par...
Jean-Paul Le Perlier.
Jean-Paul Le Perlier, c'est dramatique. Alors, donc Jean-Paul avait fait une grande interview de vous, Loïc Le Ribaud, oui. Car vous êtes un personnage tout à fait intéressant. Vous êtes d'une part un chercheur en criminologie et un trouveur, ce qui est quand même assez rare en France. Et à la faveur de ces recherches, vous avez découvert, vous avez mis au point un produit qui avait été initialement conçu par un autre, mais que vous avez développé, amélioré considérablement, qui s'appelle le G5, qui est aidez-moi.
C'est une molécule, c'est un produit. Voilà. Un produit.
Silicium organique, c'est le mot que je cherche.
Voilà.
Alors, à la suite de ça, vous avez eu des problèmes absolument invraisemblable de justice, puisque oui. Vous avez été arrêté, vous avez été jeté en prison comme un malfaiteur.
9 semaines restées, oui.
On a arrêté votre maman pour vous obliger à vous rendre, en quelque sorte, oui. Selon la technique brasillac.
Oui.
Et elle n'a pas supporté ça, elle en est morte.
Oui.
Et ensuite, vous avez été obligé de fuir à l'étranger pour échapper à cette persécution initiée par la mafia des laboratoires pharmaceutiques. Vous aviez trouvé refuge en Irlande.
Oui, depuis 5 ans.
Depuis 5 ans. Et là, vous avez été obligé de fuir l'Irlande.
À nouveau, il y a 15 jours. Tout à fait.
Alors, j'aurais plusieurs questions à vous poser, mais la première, naturellement, c'est porte sur le motif de cette obligation dans laquelle vous vous êtes trouvé de fuir l'Irlande. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ?
Je crois que ce qui se passe de nouveau, en fait, c'est... Bon, ben d'abord, le premier mandat de l'arrêt international qui avait été lancé contre moi en 1999... concernait l'exercice, tout simplement l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Bon, j'ai réagi, moi, en portant plainte contre la France en Cour européenne de justice, au mois d'avril, je crois, 2002. Parce que c'est complètement, c'est totalement aberrant. Tout simplement parce que la réalité, c'est pas uniquement l'ordre des médecins, c'est pas uniquement le fait que le G5, donc le produit que j'ai mis au point et qui marche très bien, qui marche trop bien d'ailleurs, il est pas cher, il marche trop bien, donc ça dérange considérablement l'industrie pharmaceutique. Mais la réalité, c'est que lorsque je faisais de la police scientifique et technique, c'est quand même moi qui ai, et ça c'est reconnu, et c'est moi qui ai rénové toute la police scientifique française. Quand j'avais le laboratoire du CARM.
Oui.
Oui. Et j'ai traité les plus grosses affaires. J'ai traité à peu près 2000 affaires criminelles en 12 ans, dont toutes les principales affaires criminelles. Malheureusement, j'étais quelqu'un d'indépendant. Et mon laboratoire était indépendant. Donc le ministère de l'Intérieur, en 1991, a absolument tout mis en œuvre pour détruire mon laboratoire. C'est qu'il a réussi sans problème, tout simplement parce que je n'ai plus de clients ou alors l'État ne me payait plus. Donc j'ai été ruiné à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé, tout simplement, j'avais quelques dossiers comme ça en réserve, des recherches que j'avais faites. Et c'est là que j'ai lancé le dossier sur le silicium organique, qui a bien sûr déplu à l'ordre des pharmaciens et à l'ordre des médecins. On ne peut pas lancer sur le marché une molécule qui n'est pas toxique et qui n'est pas chère et qui marche. Parce qu'une molécule comme ça, ça réduit à néant des milliers de molécules dangereuses actuellement sur le marché. Il n'y a qu'à regarder dans la presse le nombre de médicaments qui sont retirés après avoir été mis sur le marché pendant 6 mois, pendant 1 an, et dont on se rend compte que c'est dangereux. Or, moi, j'ai 25 ans de recul sur cette molécule qui n'est pas dangereuse. Et pour tout dire, j'ai à peu près à l'heure actuelle 1 million de patients qui l'utilisent. C'est-à-dire que c'est considérable. C'est-à-dire que ça commence quand même à devenir un petit danger pour l'industrie pharmaceutique.
Et si vous permettez, je voudrais vous interrompre une seconde parce que je voudrais vous donner lecture d'une lettre que j'ai reçue, que j'ai trouvée en arrivant à la radio là tout à l'heure.
Oui.
Et je vraiment sur mon honneur, c'est pas du tout une invention. J'ai trouvé cette lettre qui vient d'une dame dont le prénom est Raymonde et qui habite à Paris dans le 13e arrondissement. Elle se reconnaîtra. Et elle est datée du 30, donc elle a été postée hier. Et miracle, en France en 2003, elle est arrivée aujourd'hui.
Ça, je ne vous crois pas après.
Mais... Non, non, mais je vous jure, c'est pour vous montrer à quel point cette affaire est invraisemblable, mais elle est vraie. Et voilà cette lettre. Monsieur Serge, alors, je suis désolé, je lis toute la lettre.
Hein. Oui.
Monsieur Serge, je vous aime. Je vous rassure tout de suite, je fais partie du 4e âge. J'aime vos émissions chaleureuses et je partage vos saintes colères. Continuez. Si je vous écris aujourd'hui, c'est pour vous remercier de nous avoir fait connaître Monsieur Leribaud et son remède miracle. À la suite d'une chute dans l'escalier, j'avais une douleur dans le dos très handicapante. Obligé de m'allonger toutes les 2 heures, je m'étais résigné à cette douleur devenue chronique. Grâce au G5, cette douleur a disparu. Si vous pouviez inciter les auditeurs à se procurer votre cassette, pourquoi souffrir inutilement alors que le remède vient d'Irlande ? Bon, après, il y a des compliments qui sont trop publicitaires pour que je les dise, mais c'est vraiment une dame qui est enchantée. Alors, ça, c'est un témoignage que j'ai reçu. Elle ne savait pas, cette dame, que vous alliez passer dans mon émission. Je l'ai reçu tout à l'heure. C'est une coïncidence. Mais des lettres comme ça, j'en ai reçu des dizaines. Et je ne lis pas ça pour faire de la publicité au G5, qui n'en a pas besoin, mais pour donner la mesure de ce que peut représenter pour des gens comme cette dame, et c'est la même chose pour les produits Beljanski d'ailleurs, l'interruption du service de ces produits. Car même s'il s'agit, comme on l'a dit pour Beljanski ou pour vous ou pour le G5, d'un effet placebo. Il y a des milliers de gens qui se trouvent mieux du fait qu'ils utilisent un produit auquel ils sont habitués, pour des raisons strictement de rivalité économique. On les prive de ce produit et on les condamne à retomber dans leur douleur.
Oui, tout à fait.
Sans aucun motif. Enfin, c'est inhumain de faire ça.
Et si le motif, il est clair, le motif, il est financier. Le motif...
Non, mais sans aucun motif honorable, je veux dire.
Ah ben non, honorable. Non,
bien
non.
sûr. Alors, mais bon, ça c'est déjà une chose. Mais la deuxième chose qui est... Alors là, on entre dans la folie furieuse. On entre dans le meilleur des mondes, ou le pire des cauchemars. C'est que, pour un délit... qui est un délit absolument mineur, banal, bénin, qui est un exercice illégal de la médecine, ce que font, on a eu récemment un reportage sur les dentistes bidons qui viennent du Sri Lanka ou de je ne sais où.
De Syrie.
De Syrie. Oui. Alors là, ceux-là, on leur met une amende, même pas, d'ailleurs on leur dit, bon écoutez, faites attention, ne vous faites pas prendre, etc. Mais vous, ça fait, on a quand même, on vous a envoyé en tôle pendant 9 semaines, on a arrêté votre mère qui en est morte, on vous a ruiné, on vous a chassé de France, on vous a obligé à fuir la France, et ça fait 7 ans que ça dure, et au bout de 7 ans, ces ordures se réveillent et recommencent à vous persécuter pour vous obliger à fuir de nouveau dans un autre pays que l'Irlande, parce que même en Irlande, vous n'êtes plus en sécurité. Ah non, enfin, sur des méthodes de mafieux, ça.
J'ai dû vendre ma maison, déjà, en Irlande. C'est-à-dire que je m'étais reconstruit pendant 5 ans. C'est pas facile, en hein, plus dans un pays qui parle une autre langue, en fait. Hein. Il a fallu reconstruire complètement ma vie en 5 ans.
Même les Anglais ne comprennent pas bien, alors c'est vous dire.
Ah non, 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 et les Irlandais encore moins. Et voilà, j'ai quitté la maison il y a 3 semaines, parce que comme par hasard, à ce moment-là aussi, il y a dans un journal à scandale une feuille de chou irlandaise, mon adresse personnelle a été diffusée. Ouais. Et donc, ça y est, je suis en partout.
Mais alors... Curieusement aussi, en France, dans ce qui n'est pas un journal à scandale, une feuille de chou, c'est un journal qui s'appelle L'Express, au moment même où reprenait les persécutions contre vous, a été publié un article qui est un article de pure et simple délation, où oui. on vous accuse d'être un charlatan. On laisse entendre, on en tout cas, que vous êtes un charlatan, que, bon, tout ça...
Certains
pas
me considèrent comme un escroc.
Voilà, c'est ça.
Je vais percevoir qui, d'abord.
Oui.
Et cette personne me connaît bien, parce qu'elle a fait un article sur le Carme il y a 12 ou 13 ans. Donc, il y a déjà eu un article qu'elle a fait. Qu'elle a fait cette personne, et elle a connu le Carme, elle a connu ce que ça représentait, etc. Elle est venue me voir, juste le jour d'ailleurs où je quittais ma maison. J'ai eu la gentillesse de l'accueillir, et je lui ai expliqué la situation. Eh bien non, là c'est un article qui a été fait, qui visiblement est un article de... c'est un article assez répugnant, quoi.
C'est un article qui est fait pour vous desservir.
Oui, j'ai évidemment. Je passe mes vacances en Irlande.
Oui, c'est, bah, écoutez, alors vous, c'est charmant l'Irlande, mais enfin en hiver, c'est quand même pas, pas beaucoup de palmiers.
Non, justement. Excusez-moi de vous interrompre.
J'en prie.
Je reviens quand vous parliez d'effet placebo, qui est possible, parce que l'effet placebo, en principe, représente à peu près 24% il y a des gens qui sont effectivement sensibles à l'effet placebo. Ceci dit, avec mon produit, j'ai quand même une moyenne de 90% de réussite. Alors ça, c'est plus de l'effet placebo, mais la meilleure preuve que c'est pas de l'effet placebo, c'est qu'il est de plus en plus utilisé à des usages vétérinaires.
Oui, là, ça complique les choses. Là.
Ben, oui, parce que pour l'instant, parmi mes patients, je compte des chevaux, des chats, des chiens, un poisson rouge.
et pas de raton laveur.
Non, ça j'ai pas.
Qu'est-ce que c'est que cette discrimination intolérable?
Alors, là, l'effet placebo, ça marche pas. Voilà.
Ouais. Alors, maintenant, il y a une question qui est beaucoup plus grave, c'est que, bon... Il y a évidemment dans les motifs qui agitent l'établissement contre vous, il y a l'argent. Bon, mais il y a peut-être autre chose, parce que il faut quand même me rappeler que, en tant que spécialiste de l'investigation criminologique, sur le plan de, enfin, en utilisant les outils de la géologie, vous avez été amené à vous intéresser à deux affaires qui sont des affaires gigantesques. Il y a eu l'affaire de la maison des Trois Têtes à Toulon, où vous avez démontré que les explications officielles étaient fausses et mensongères.
Oui.
Et puis, il y a l'affaire Chanal.
Oui, il y en a eu d'autres d'ailleurs. Le problème, c'est qu'en l'espace d'un an, j'ai sorti mes preuves à l'appui alors, hein. Dans l'histoire de la maison des têtes à Toulon, explication officielle démentie d'ailleurs par le Gaz de France, c'est une explosion due au gaz, et c'est officiellement démenti par le Gaz de France, et j'ai prouvé que c'était un missile perdu qui était arrivé, plaf, et puis voilà. Il y a l'histoire de la jonque, ce chalutier, leur version officielle, qui a accroché sur un banc de sable, ce qui est impossible. Et donc, dont on a prouvé que c'était un objet sous-marin. Alors, quel objet sous-marin? On ne sait pas trop, mais enfin, objet sous-marin, en général, c'est un sous-marin.
Voilà. Un objet sous-marin non identifié, en l'occurrence.
Oui, absolument non identifié, de nationalité inconnue, d'ailleurs, ce qui est vrai, en l'occurrence. Il y a eu l'affaire Chanal, et puis beaucoup d'autres affaires comme ça, où j'ai eu le malheur, étant indépendant, avec un laboratoire indépendant, de dire la vérité, tout simplement, très naïvement.
Alors, l'affaire Chanal, il faut rappeler en deux mots, il s'agit de ce sous-officier qui est accusé d'avoir enlevé, violé et assassiné plusieurs appelés dans la région de
Mourmelon.
Le triangle de Mourmelon.
Le triangle de Mourmelon.
C'est-à-dire qu'il a été pris, alors là, sur le fait, en fait, il avait enlevé et violé un jeune Hongrois. Et on a trouvé le Hongrois, c'est une patrouille de gendarmerie. Et l'adjudant a eu du flair, il est allé regarder dans le combi Volkswagen qui était arrêté dans la forêt. Il a vu à l'intérieur quelqu'un qui était attaché, c'était ce jeune Hongrois. Il a vu quelqu'un arriver de la forêt avec une pelle à la main. C'était donc Chanal qui s'est présenté comme adjudant chef donc du camp de Mourmelon. Les gendarmes sont rentrés avec Chanal à l'intérieur du combi Volkswagen. Et puis il a vu donc le jeune, enfin il a vu plus en détail le jeune qui était enchaîné sur à l'intérieur du combi. Et puis Chanal lui a dit ah oui mais ça c'est parce que c'est des jeux sexuels et il est tout à fait d'accord. Et alors le Hongrois il a commencé à parler mais c'est incompréhensible parce qu'évidemment il parlait hongrois. Alors l'adjudant de gendarmerie a fait venir tout le monde au poste, on a fait venir un interprète. D'autant que le Hongrois, il ne devait pas l'air content du tout d'être attaché. Et puis, bah, il a expliqué son histoire. Et donc Chanal a pris, je crois que c'est 7 ans, pour viol. Séquestration et viol. Mais l'adjudant, lui, il s'est souvenu de gendarmerie. A fait le rapprochement adjudant qui viole quelqu'un, qui l'enchaîne, qui est de Mourmelon. Et il s'est souvenu de l'histoire du triangle de Mourmelon, où il y a eu 8 appelés, si je me souviens bien, 8 personnes dans tous les cas, qui avaient disparu. Et à partir de ce moment-là, ça a relancé l'affaire des disparus du triangle de Mourmelon. Voilà.
Alors, après. Et moi, vous êtes intervenu à quel moment, là?
Alors, moi, l'adjudant s'est également souvenu, c'est un très bon gendarme, c'est un très bon enquêteur, que exactement un an auparavant, à proximité, on avait trouvé le corps d'un jeune Irlandais, Trevor O'Keefe, tué, étranglé. Et que, ma foi, c'était intéressant de... puisqu'il y avait cette pelle qu'on avait trouvée, donc, entre les mains de l'adjudant Chanal, de faire peut-être une comparaison entre la terre de l'endroit où on avait trouvé Trevor O'Keefe, le jeune Irlandais, et puis la terre qui, ma foi, peut-être se trouvait encore sur cette pelle. Et alors, on a demandé une expertise, demandé une expertise au laboratoire de police de Lille, je crois, pour savoir si on trouvait des éléments sur la terre de la tombe, je dis tombe entre guillemets, parce que c'était là juste un trou, de Trevor O'Keefe. Et le laboratoire de police, selon son habitude, avait répondu qu'on pouvait rien dire. Bon. Et puis à partir du moment où on a eu cette pelle, on m'a demandé à moi de faire par exoscopie des quartz, la méthode que j'ai inventée en 1973 et qui est utilisée maintenant dans le monde entier, de faire une comparaison entre la terre donc de la tombe de Trevor O'Keefe et la terre trouvée sur la pelle. Et puis j'ai conclu que c'était la même. Ce qui signifiait que la pelle de Chanal avait servi à creuser la tombe de Trevor. L'appel de Chanal, bien sûr. Bon, qu'il l'avait entre les mains, ça, bon, ça je ne pouvais pas le dire. À partir de ce moment-là, il y a eu une seconde expertise qui a été décidée et qui a été donnée encore une fois au laboratoire de police de Lille, qui a conclu que mes expertises, évidemment, n'avaient aucune valeur. 7 ans se sont écoulés, et puis, alors que j'étais en prison, il y a un juge, le juge Chapard, qui s'est dit, mais est-ce que ça a été bien fait, cette contre-expertise? Est-ce que c'est bien objectif? Et alors, il a téléphoné à la gendarmerie de l'endroit où j'habitais, la Teste. Et il a demandé à l'ange de gendarmerie de la Teste, est-ce que vous avez les coordonnées de Le Ribot ? Et la gendarmerie a dit, ah non, ça, Le Ribot, non, il n'est pas là, il est à la prison de Gradignan. Et alors le magistrat a dit, ah bon, il fait des expertises là-bas. Et le gendarme a dit, ah non, il est en tôle. Et alors, le juge a téléphoné à la prison, et on lui a dit, ben non, il vient d'être libéré là juste hier. Alors, le juge est venu me voir, avec le dossier.
Ah, c'est extraordinaire.
C'est une histoire de dingue, mon histoire, hein, de toute façon. Il y aurait de quoi faire un film, en fait. Hein, c'est...
Et... Il y a déjà une cassette, mais le film verra.
Et c'est là que j'ai compris, en fait, le réel acharnement qu'il y avait contre moi. Parce que quand j'ai découvert... Donc le juge me demandait, lui, de faire une surexpertise de tous les dossiers d'expertise. Et là, je me suis rendu compte que les laboratoires de police, donc je crois que c'est Lille, je ne l'ai plus en mémoire, et avec l'université de Lille, avaient fait des faux dossiers. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des fausses critiques, qu'ils avaient fait des... Mais maintenant, il n'y a plus d'aveugles, il y a des non-voyants. Hein.
Oui.
Ils avaient fait des non-expertises. Et ils avaient raconté mais une collection de mensonges scientifiques qui sont certainement une des pires escroqueries scientifiques et techniques qu'on puisse publier. Et là, ça devient très embêtant parce que je savais, moi, que pour couler le laboratoire, le ministère de l'Intérieur avait monté contre le CARM des faux dossiers, avait truqué, en fait, des dossiers d'expertise. Et donc, là, je devenais très, très embêtant. Alors, finalement, le cheminement est assez simple. C'est-à-dire qu'on coule mon laboratoire. On coule mon laboratoire et on me ruine totalement. On me ruine à un point que je n'avais même plus, pendant 2 ans, de quoi m'acheter un paquet de cigarettes. Hein. J'ai ce défaut, je fume.
Essayez le G5, ça peut peut-être marcher.
Non, ça me fringera les poumons.
Oui.
Et alors, j'étais vraiment ruiné. Je n'avais plus de téléphone, je n'avais pas de voiture, je n'avais rien du tout. Donc, j'étais en fait disparu. C'était un bon débarras. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la police et la gendarmerie ont pu tout simplement copier mes méthodes en prétendant que c'était les leurs.
Mmh.
Il faut savoir quand même que moi, j'avais offert à l'État français, mon laboratoire, j'avais offert mes techniques, j'avais offert mes brevets. Et que pour copier ce que j'offrais gratuitement, un nommé Jox, Pierre de son prénom, qui était ministre de l'Intérieur, a dépensé 170 millions de francs de la poche du contribuable, de vos poches par conséquent, je dis vos parce que moi je ne paye pas d'impôts en France évidemment, pour copier ce que je ferai gratuitement.
C'est extraordinaire.
Et ça, bien sûr, il y a toutes les preuves écrites. Je raconte rien que je ne puisse prouver. Ça a été publié, ça, d'ailleurs, dans la presse. Et puis Jacques lui-même m'a dit, tout fier, on a dépensé 170 millions de francs pour créer ces laboratoires. Qui était en fait le CARM, la même chose que le CARM, quoi. Que mon laboratoire. Et puis après, on croit que je suis mort. Et voilà pas que je sors un dossier que j'avais caché. C'était cette histoire de G5, de molécules qui marchent trop bien. On me croyait mort et on me croyait muet. Et puis je réapparais sur le devant de la scène. Et en plus, la télévision en parle. Et j'ai le culot de dire, là j'ai eu tort, que mon expérience prouvait que les gens préféraient être guéris illégalement que mourir dans le respect des lois.
Bien sûr.
Et là, immédiatement, évidemment, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins porte plainte contre moi. Mais en fait, en réfléchissant bien, parce qu'il y a actuellement 70 sociétés qui fabriquent du faux G5, et même des produits dangereux. Ces gens-là ne sont pas inquiétés.
Oui.
Ils ont le droit de faire de la publicité, ils ont le droit de s'exprimer librement. Alors pourquoi moi pas ? Mais c'est à cause de cette histoire de police scientifique. Je connais beaucoup trop d'histoires trafiquées par l'État, d'affaires d'État en fait, trafiquées par l'État. Et maintenant que je ne suis plus là,
oui. C'est
très simple, j'étais là, et des juges honnêtes pouvaient me confier des expertises que je faisais honnêtement. Maintenant, une affaire d'État, elle va être étudiée par des laboratoires d'État. Avec du personnel d'État, du matériel d'État, avec des gens qui sont soumis à l'État, que ce soit police ou que ce soit gendarmerie. Le problème est résolu. Il n'y a plus d'experts indépendants.
C'est plus sûr.
Et c'était ça, la vraie raison.
Alors, Loïc Leribaud, je vous propose, on arrive là à la fin de la première partie de l'émission, je vous propose de patienter quelques minutes, et je voudrais qu'on termine en 5-10 minutes après la coupure, en revenant à la question du G5 proprement dit, et que vous expliquiez aux auditeurs de quoi il s'agit, rapidement, parce qu'on l'a déjà fait, mais comme on a sans cesse de nouveaux éditeurs, c'est intéressant de leur expliquer d'une part comment vous avez mis ça au point, d'autre part quels sont les effets dont vous soutenez qu'ils sont ceux du G5. Vous voyez, je suis très prudent, moi.
Oui, oui, mais moi aussi.
Et puis ensuite, la question, la dernière question, c'est celle de la survie de votre produit à vos aventures, si j'ose dire, parce que j'imagine que c'est pas très facile maintenant.
Si, il n'y a pas de problème, mais par exemple, un point que j'aimerais, dont j'aimerais parler, c'est parce que j'ai quand même un réseau personnel dans les services de police et de gendarmerie.
Oui.
Et je me suis procuré des documents internes, j'aimerais vous parler.
Bon, alors écoutez, on va passer un peu de musique pour la coupure traditionnelle de 19h30 et je vous redonne la parole dans 2-3 minutes.
Attendu.
À tout de suite, merci. Ne quittez pas. Loribaud, vous êtes toujours avec nous?
Ah oui, j'aime beaucoup votre musique.
Oui, elle est belle, hein?
Ah oui, j'aime.
Mais vous avez raté le début de l'émission parce que on m'a fait passer tout à l'heure un rap. Vous savez ce que c'est que du rap?
Oui,
vous connaissez ça en Irlande aussi?
Non, mais vous, en Caraïbes, oui.
Ah bah oui. Une espèce de rap qui a été fait avec des extraits de mon émission. Là, vous avez vraiment manqué quelque chose de très très bien. Je crois que je vais essayer de le commercialiser. Est-ce que je vais faire de l'or?
Mais de toute façon, les pays vers lesquels je m'en vais, que je n'habite pas pour l'instant...
Non, il faut mieux.
Je pourrais capter votre émission.
Ah bon, bah c'est une bonne nouvelle. On restera en contact. Alors, vous nous disiez à l'instant que dans le cadre de des contacts que vous avez gardés, parce qu'il faut quand même préciser que toute la gendarmerie, toute la police n'est pas complice du sort qui vous est fait, de même que toute la justice n'est pas... C'est certains, individus qui sont...
Moi, j'accuse la direction générale de la gendarmerie nationale et le ministère de l'Intérieur.
Voilà.
Et moi, justement, quand j'ai fait ces enquêtes criminelles sur le terrain... je n'ai rencontré que des enquêteurs passionnés et honnêtes. Et de toute façon, les magistrats qui faisaient appel à moi voulaient avoir réellement la vérité. Ils ne cherchaient pas à avoir des trucages. Donc forcément, les gens que j'ai fréquentés pendant ces 12 ans m'ont donné une image de la police, de la gendarmerie et de la justice excellente. Évidemment.
Bien sûr. Alors, vous nous disiez que ces policiers, ces gendarmes avec lesquels vous aviez gardé le contact, vous ont... informé de...
Ah, mes services secrets,
voilà.
Police, gendarmerie, sont très bien organisés. Et alors, donc, avec mon mandat d'arrêt, là, que j'ai sous les yeux, oui, parce que j'ai eu un mandat d'arrêt international qu'on a annoncé à la presse irlandaise. Ça, faut le faire. C'est le ministère de la Justice qui l'a annoncé à la presse irlandaise. Le
ministère de la Justice, en France.
Le ministère de la Justice, le porte-parole du ministère de la Justice français, a annoncé à la presse irlandaise, très exactement à l'Irish Times, que j'avais un mandat d'arrêt contre moi. C'est sympathique.
C'est extraordinaire. On a l'impression que vous avez assassiné 500 000 personnes.
Ah, moi, je suis plus recherché que Ben Laden et Saddam Hussein.
Ah oui. Remarquez, si c'est aussi efficace, vous êtes tranquille pour un moment.
Oui, c'est ce que je pense aussi. Et alors, ils ont annoncé que ce mandat d'arrêt avait été lancé le 21 juin, tout simplement parce que la presse irlandaise les a interrogés, je crois que c'était le 24 juin.
Mmh.
Alors qu'en fait, le mandat d'arrêt a été lancé le 28 août. Donc c'était un mensonge.
Oui, c'est ça. Enfin, on n'est pas très étonné d'apprendre que le porte-parole du ministère de la Justice ment.
Non, mais j'ai les preuves écrites. Et alors, donc j'ai là le mandat d'arrêt sous les yeux, mais ce que j'ai, c'est que j'ai aussi les documents internes police qui sont joints à un mandat d'arrêt. C'est pour bien montrer que le bonhomme, il est dangereux, quoi. Il y a le document officiel qui traîne sur les ordinateurs, le fichier des personnes recherchées, fichier des personnes recherchées, le RIBO, situation maritale, il n'y en a pas, études, nul, il n'y en a pas, j'ai pas d'études non plus.
En plus, analphabète.
Je suis analphabète. Voilà. Dernier domicile, ça c'est les dossiers donc confidentiels, police. Hein. Dernier domicile connu, prison de Gradignan.
Bravo, bravo la police, comme dit Zazette.
Faut quand même savoir qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui savent où me trouver. Hein.
Oui.
Voilà. Et alors je découvre là que j'ai entre 94 et 80... Bon, en 94, j'ai fait 1, 2, 3, 4 abus de confiance. Alors lesquels, ça j'en sais rien parce que c'est pas précisé. Suite judiciaire inconnue, situation mise en cause libre. Et alors le plus extraordinaire, c'est le dernier, ça c'est le 7 janvier 97, émission de chèque sur un compte soldé. Et là, à cette date précise, j'étais depuis un mois en prison et j'y restais encore un mois et demi.
J'avais fait des chèques en prison.
J'ai fait des chèques sans provision quand j'étais en prison.
C'est vous intérêtique qui relapse, là. C'est même plus de la récidive, là. C'est encore pire.
Bah, c'est-à-dire que j'ai dû m'évader, puis personne n'a su, et quand j'ai fait un chèque sans provision. Et c'est quand même fabuleux, ça.
Et en fait, bon. Non, mais on blague, mais c'est effrayant, parce que c'est du Orwell. C'est...
Oui, mais moi, je commence à avoir l'habitude, mais non, ça va, quoi. Mais ça finit par être fatigant.
Ouais.
Et puis donc, je comprends parfaitement ce nouveau mandat d'arrêt. C'est d'abord, j'ai déposé plainte contre la France en Cour européenne de justice il y a donc 2 ans à peu près. Et puis il y a cette affaire Chanel qui arrive. Et la trouille bleue qu'ils ont, c'est que je révèle et que je prouve que les laboratoires de police sont capables de faire des faux documents.
Ouais.
Et je les ai, ces preuves. Et je vais les produire.
Donc vous n'avez pas fini, vous n'avez pas baissé les bras.
Ah moi, non. Ah, bah, pour baisser les... Non, je ne suis pas tellement...
Je voudrais, pour terminer, qu'on en revienne au G5, qui est quand même le motif principal de votre présence dans cette émission, parce que l'idée, c'est d'abord de montrer à quel niveau transformation du système en mafia on en est arrivé, mais c'est aussi d'aider des gens qui souffrent à moins souffrir. Alors, j'ai lu tout à l'heure une lettre d'une dame qui...
Oui, ça fait plaisir.
Oui, mais alors justement, je vais immédiatement apporter la contradiction, puisque j'ai eu 2 messages depuis. Une dame, je crois, qui nous dit... Moi, j'ai pris 5 litres, j'espère qu'elle les a pas pris le même jour. J'ai pris 5 litres de G5 et ça ne m'a rien fait.
Oui.
Et une autre dame qui dit... Ma belle-mère a dû interrompre le G5 qu'elle prenait pour sa polyarthrite, car cela la faisait trop souffrir. Alors là, la question est précise. Est-ce que le G5 peut provoquer des douleurs pour des raisons que vous avez analysées?
Oui, alors la première question à poser, c'est de savoir d'abord si c'est bien du G5 que ces personnes ont acheté en Irlande. Parce que le problème qu'il y a, il y a actuellement, je vous ai dit, 70 sociétés qui vendent du produit, certaines baptisées G5, certains produisant ma signature, ma photographie, des articles qui sont parus dans les journaux et qui se font passer pour moi.
C'est exactement le système Beljanski, exactement. Les escrocs qui ont copié, enfin qui font du faux Beljanski, font exactement la même chose avec la photo du docteur de Monsieur Mirko Beljanski, le nom, etc. C'est...
Oui, il y en a même un qui diffuse un document avec ma photo, avec la première page publiée dans Sud-Ouest Dimanche, qui a en fait lancé le G5, qui a lancé le scandale. Et alors il y a ma photo, simplement j'ai un bandeau rouge sur les yeux et c'est marqué « Toute la presse en parle ».
Voilà. Enfin, vous vous attendiez pas, il y a quelques années, à devenir une vedette de la publicité, quand même.
Mais non, puis c'est pas du tout mon objectif. Je suis content que des gens soient soignés. Alors, ça ne soigne pas à 100%, je ne l'ai jamais prétendu.
Ouais, bien sûr.
Ça soigne.
Donc, première question.
90% des cas, ça c'est certain.
Est-ce bien le G5, le Reebok, que cette dame a pris? Il faut que je vérifie.
Et ensuite, un autre problème. Par exemple, pour des maladies de peau, hein, pour des problèmes comme l'eczéma, il arrive que les gens, le lendemain ou le surlendemain de la prise de produit, les gens voient l'eczéma se développer. Et c'est tout simplement parce que ça fait mûrir. Et il arrive également, comme pour les hépatites virales, que des gens subitement se mettent à avoir très mal au foie. Et c'est que le produit a agi.
Ah bon?
Voilà. Et dans ces cas-là, il faut arrêter pendant 4-5 jours et reprendre.
Et vous racontiez aussi, vous racontez dans un de vos livres l'histoire d'un jeune homme qui était un sportif en pleine forme, qui un jour, pour faire comme son beau-père, prend un verre de G5 pour voir ce que ça pouvait donner, ressent une violente douleur au cœur, vous êtes prévenu, vous dites attention, il y a danger d'accident cardiaque, et effectivement il va faire un accident cardiaque quelques jours plus tard. Oui. Ça peut servir d'avertisseur.
Ça peut servir d'avertisseur. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que très prochainement, mais quand je dis prochainement, c'est très très prochainement, un organisme qui pourra conseiller les gens.
Non.
Je ne donne pas de coordonnées. En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis actuellement sous-marin. Je suis un sous-marin.
J'espère que c'est pas vous qui avez fait couler la jonque.
Non, il n'était pas encore construit, mon sous-marin. Mais un sous-marin, parce que finalement, j'étais très gentil. Moi, je comptais sur le procès en Cour européenne de justice qui traîne. Bon, il y avait un mandat d'arrêt qui avait été lancé en 99. J'ai pas bougé, je me suis reconstruit la vie. Maintenant, il faut que je la reconstruise. Et j'ai pas été méchant, j'ai pas attaqué l'État français. Maintenant, ils ont exagéré. Alors maintenant, le sous-marin, un sous-marin, en général, ça a des torpilles. Voilà.
Alors, je vais vous lire les derniers messages qu'on reçoit. On en reçoit beaucoup, mais on en a sélectionné quelques-uns, là, parce que ils concernent d'abord notre conversation. Alors, les deux personnes dont j'ai lu les messages disent les 5 litres de G5 venaient bien d'Irlande. Je les ai pas tous pris le même jour, dit cette dame, et cela ne m'a rien fait. Donc, je pense que le fait est que ça ne marche pas à 100%. Autrement, vous seriez le bon Dieu, et je serais content de vous avoir au téléphone.
Mais dans ces cas-là, parce que bon, évidemment, il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Hein. Alors, le traitement doit parfois être adapté aux gens.
Alors maintenant,
augmenter les doses ou varier les, c'est rare, hein, mais ça arrive, ou bien varier les prises, enfin les dates de prise, ces genres de choses, et puis jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Mais on la trouve toujours, ça.
Alors d'autres messages. Dites à Monsieur Leribaud de prendre un chapelet. Et cette dame ajoute, mon chien aime le gel de G5.
Ah.
Bon, alors, moi, à mon avis, je ferais mieux de surveiller son alimentation, parce que c'est quand même, c'est pas donné le G5, faut bien dire.
Ça devrait baisser aussi.
Donc si elle nourrit son chien avec, ça va vite lui coûter très cher.
Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Il y a 6 ans, hein, le G5 était à 430 francs le litre. Et comme la production augmente, j'ai réussi à diminuer le prix de moitié. Et bientôt, ça va encore diminuer.
Bon, voilà, des bonnes nouvelles.
Oui, mais c'est pas facile, parce que...
je crois qu'on l'a compris, que ça, si tu le souhaites, c'est pas facile.
Non, mais je veux dire, mon rêve, moi, c'est que ça devient vraiment à la portée de toutes les bourses. Quoi.
Alors, on va croire que c'est l'élixir de Perlimpinpin, mais bon, ou l'élixir du docteur. Vous savez ce que vendaient au Far West les gars dans leur chariot? Parce que, voilà une dame qui dit, je prends votre G5 depuis 8 mois, oui. J'ai des cheveux blancs, et voilà qui repousse des cheveux noirs.
Oui, c'est normal.
C'est normal, docteur, tout va bien. Monsieur Leribaud, le G5 est aussi très bien pour les plantes.
Oui, ah oui, j'ai oublié ça.
C'est incroyable, ce truc.
Non, je suis en train de mettre au point, d'ailleurs, quand j'aurais réussi à me stabiliser quelque part, mais j'avais commencé à le faire, un engrais tout à fait biologique.
Mais alors, ça tombe bien, parce que nous avons autour de ce micro l'invité de Cécilia, qui fait son émission sur les plantes, vous savez, et qui est le responsable des jardins jardins de Versailles, c'est ça ?
Du
potager du roi à Versailles. Et donc, je vais lui communiquer les coordonnées, il pourra engraisser, ou je ne sais pas ce qu'on fait les plantes.
Il faut en mettre très peu, par contre.
Ah, il faut en mettre très peu. Bon, alors ça ne vous coûtera pas trop cher, monsieur. Donc, et cette dame ajoute, de façon plus sérieuse, encore que c'est sérieux pour les plantes, le G5 a sauvé mon mari qui souffrait d'hémochromatose.
Oui.
Je ne sais pas du tout ce que c'est que cette maladie, mais le nom est inquiétant.
Oui.
Et enfin, une auditrice demande, est-ce que le G5 fonctionne pour les rétinites pigmentaires?
Pour les
rétinites pigmentaires.
Qu'est-ce?
Vous êtes comme moi, vous savez pas ce que c'est.
Non,
c'est une affection ophtalmologique, certainement.
Oui. Probablement, oui. Merci, monsieur Goffman, votre intervention.
Consultation gratuite.
Non, mais la définition exacte de la maladie, je ne la connais pas.
Bon, eh bien, écoutez, je pense que c'est dans les yeux, et donc je ne sais pas si on peut se mettre du G5 dans les yeux, j'ai pas l'impression que c'est recommandé.
Si, mais justement, contre la cataracte, c'est assez spectaculaire.
C'est incroyable, ça.
On se met des gouttes. Alors, il y a des gens qui supportent... c'est-à-dire que ça pique les yeux pendant quelques secondes. Bon, mais ce qu'on peut faire, c'est...
Non, mais si on l'avait pas expérimenté en famille, je dirais que vous vous moquez de moi, carrément. Hein.
Mais moi aussi, mais vous savez, la plupart... Vous savez, les résultats, je les ai accumulés pendant 15 ans. Et quand j'ai vu les résultats, parce que je n'y croyais pas, parce que c'était pas possible, parce qu'il fallait trouver une explication. Et c'était pas possible. Et puis finalement, je me suis rendu compte.
Moi, j'ai une explication, mais vous ne la prendrez pas. Alors, on ne va pas en parler ici. Non, je vous taquine.
C'est simplement, ça restructure l'ensemble de l'organisme. C'est-à-dire que ça donne la force à l'organisme de combattre lui-même ce qui est déficient. C'est la seule explication possible. Et comme c'est un produit, on sait parfaitement qu'une cellule malade est une cellule dont la polarité, vous savez qu'il y a un pôle plus et un pôle moins dans une cellule, et quand une cellule est attaquée par une maladie, par un choc, par n'importe quoi, les pôles migrent, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en parfaite opposition.
Ouais.
Et le G5 est un produit qui est très instable, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de s'échanger lui-même des ions positifs et négatifs. Voilà. Et c'est ce qui explique que quand on le prend, beaucoup de gens sentent une sensation de chaleur ou de froid, des picotements électriques. C'est le produit qui diffuse à travers l'organisme et qui échange ses pôles, oui, positifs et négatifs.
Bah voilà. Écoutez, je suis content d'apprendre, de savoir pourquoi on se sent mieux quand on prend du G5. Et puis, donc, oui, j'ai bien compris. Mais comme vous nous avez fait le cadeau de cette information scientifique, moi, je vais vous faire à mon tour un cadeau, une petite annonce gratuite.
Oui.
Monsieur Le Ribaud, cherchez-vous une épouse. Je suis prêt à partager votre vie pleine d'aventures.
C'est très gentil. Mais j'ai une vie tellement dure, je vais vous dire. Ouais.
Non, mais alors, moi, je suis obligé de vous rassurer parce que, en dessous de ce message, il y a, entre parenthèses, blague, et le signe H qui, dans les messages de Radio Courtoisie, signale que c'est un homme qui a téléphoné. Donc, je suis désolé de vous avoir fait une fausse joie. Mais.
Bon, il faudrait quelqu'un qui soit capable d'avoir ses bagages toujours prêts. Et prêt à partir n'importe où, n'importe quand.
Alors. Attendez, apparemment, ça vous gêne pas du tout que ce soit une proposition qui émane d'un homme. Vous occupez des bagages.
Du moment qu'il a une valise, c'est bon.
Bon, enfin,
remercie beaucoup ce monsieur, mais je ne suis pas intéressé.
Ça fait très plaisir de voir que malgré quand même la persécution invraisemblable dont vous êtes l'objet, vous gardez un moral d'acier.
Ah oui.
Et je suis bien content d'avoir pu vous donner la parole. J'espère que, puisque vous allez pouvoir entendre nos émissions, vous pourrez intervenir de nouveau. Ce sera toujours avec grand plaisir que je vous recevrai.
Ah ben je pense que d'ici une semaine, je serai en mesure d'écouter vos émissions.
Alors, les auditeurs qui sont intéressés et qui voudraient en savoir plus peuvent se procurer un film qui vous est consacré, qui est un documentaire de 56 minutes, qui s'appelle « Mandat d'arrêt contre un chercheur », film réalisé par Jean-Yves Billien et Pancho Arets, que j'avais reçu à cette émission d'ailleurs. Le prix de la cassette est de 30 euros. Ça raconte votre histoire.
Oui.
Et on peut se procurer cette cassette auprès de Satya Productions, 112 boulevard Jean Jaurès, 92 110 Clichy-la-Garenne, 01 40 87 03 53, 01 40 87 03 53, et je répète que le prix de la cassette est de 30 euros. Quant à l'adresse pour le G5, alors elle n'a pas changé.
Ah non, parce que c'est à moi qu'on en veut. Pour l'instant, le G5 n'est pas en danger. La compagnie, je veux dire, n'est pas en danger. Et je ne suis pas, d'ailleurs, bien entendu, à la compagnie. Je n'y ai jamais été volontairement pour ne pas poser de problème. Donc elle n'a pas changé, elle n'a pas bougé. Et de toute façon, si, pour une raison ou pour une autre, parce que maintenant l'Irlande fait partie de l'Europe, alors si pour une raison ou pour une autre, la compagnie venait à disparaître, je peux vous garantir que la solution de rechange, elle est prête et qu'une autre compagnie fonctionnerait en un mois.
Bien. Alors, je donne l'adresse. Je vous remercie. On se quitte parce que il y a des... Non, vous voulez poser une question, Victoria? Non, pas de question.
Si, je voulais de façon précise l'adresse. Et vous
voilà. On va la donner, l'adresse. Je m'en vais la donner rapidement. Elle est de mauvaise humeur, Cécilia. On va lui faire prendre du G5.
Non, moi, j'aime pas.
Merci, Loïc Le Ribaud. Vous voyez qu'elle est vraiment de mauvaise humeur. À très bientôt.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, au revoir.
Bonne soirée à tous.
Qu'est-ce que vous avez à bouger, là?
Avez-vous on posait des questions précises. Que va-t-il se passer pour les personnes qui ont passé commande en Irlande?
Mais non, il vient de répondre, ça ne change absolument rien, puisque la société n'est pas concernée. Donc l'adresse, tenez, lisez-la, ça me reposera.
Oh non, j'aime mieux que ce soit vous.
Ah bah oui, je parce qu'il y a de l'anglais. Voilà. Alors l'adresse, c'est LLR, les lettres, LLR, Loïc Le Ribourg, G5, Ross Post Office, Ross, R-O-2-S, Poste, P-O-S-T, Office, Office, O-2-F-I-C-E, Castlebar, C-A-S-T-L-E-B-A-R, virgule, County Mayo, C-O-U-N-T-Y, plus loin M-A-Y-O, comté de Mayo, County Mayo, République d'Irlande. Voilà. Il y a des adresses e-mail.
Et le téléphone que vous avez donné tout à l'heure, vous pouvez le redonner
téléphone...
parce que moi, je n'ai pas réussi à le copier, les autres non plus.
Ben, en Irlande, c'est 094.
Non, mais vous avez donné un numéro qui commençait tout à l'heure par 01 40 87.
Pour la cassette, c'est 01 40 87 03 53.
Et l'adresse, 112 boulevard Jean Jaurès à
Clichy-la-Garenne, 92 110. Ça vous va?
C'est pas presque.
Bon. Patrick, vous voulez dire un mot du Libre Journal?
Oui, j'ai de mauvaise humeur aussi.
Je suis de mauvaise humeur. Mais
nous n'avons pas de temps.
Mais je me soigne et je propose aux auditeurs tout autre médicament qu'on pourrait dire homéopathique, puisque j'en ai pour 2 ou 3 minutes à les présenter. D'abord, notre ami Olivier Pichon, que les auditeurs connaissent bien, puisque c'est un patron d'émission à Radio Courtoisie, et qu'il n'en est pas moins professeur agrégé d'histoire, nous propose une conférence intitulée « Pour en finir avec le mammouth ». C'est une légère allusion à l'éducation nationale. Il a écrit un livre de ce titre, d'ailleurs. Il est manifeste, dit-il, que la machine est à bout de souffle. Elle forme les cancres les plus chers du monde et demande toujours plus de moyens. Il faut en finir. Donc, cette énergique conférence d'Olivier Pichon aura lieu demain, jeudi 2 octobre, à la salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, à Paris 6e. C'est le métro Saint-Germain-des-Prés. Et je m'y rendrai. Je donne rendez-vous aux auditeurs là-bas. J'aurai sur le ventre, bien entendu, une liasse de Libre Journal imprimé, le numéro 302 dont je vais, c'est un autre médicament encore plus efficace dont je vais vous dire quelques mots maintenant, le numéro 302. Dans ce numéro 302, nous faisons quelques révélations sur la ville de Toulouse et les deux scandales qui l'occupent le plus en ce moment. Je fais allusion au 2e anniversaire de l'explosion de l'usine AZF. Je suis agréablement surpris quand j'achète plusieurs jours après le bouclage de ce numéro du Libre Journal de trouver dans le Canard enchaîné à peu près la même chose, rien de plus en tout cas, que ce que nous avons imprimé plusieurs jours plus tôt au sujet de d'Ouste Blasi, député maire de Toulouse, et de la commémoration de l'affaire d'AZF. Donc le Canard enchaîné, qui a approximativement 200 fois nos moyens, n'a pas trouvé quoi que ce soit de plus à dire que nous dans notre numéro 302. Mais nous disons beaucoup plus. Beaucoup plus que le Canard enchaîné, qui n'en dit rien au sujet de l'affaire Baudis et du parrain toulousain qui est derrière cette affaire. Je pense que les lecteurs de Toulouse et d'ailleurs qui s'intéressent à cette affaire Baudis, dont Serge de Becquet, je profite de son absence momentanée du studio pour le rappeler, a dit ici même, le jour même où elle a éclaté, qu'il ne la prenait pas au sérieux et qu'il ne croyait pas un instant à la culpabilité de Baudis. Je me souviens que de mon côté, j'ai un peu ironisé ce jour-là et manifesté un petit peu de scepticisme. Je bats ma coulpe. Nous sommes donc en mesure, maintenant que c'est l'avis général et que la plupart de ses accusateurs se sont rétractés, de dire que nous allons plus loin dans ce numéro 302 du Libre Journal et que nous faisons d'autres révélations, des révélations assez surprenantes, assez sensationnelles sur une personnalité toulousaine qui est derrière le complot contre Baudis. Alors, je termine rapidement en indiquant que nous avons pour la deuxième fois un article du plus grand reporter du monde, du journal Le Monde tout au moins, Jean-Pierre Perroncet-Lugoz, qui nous a donné deux pages magnifiques du point de vue du style sur les îles du Portugal, que nous avons encadrées avec une actualité assez effroyable, assez scandaleuse, assez douloureuse au Portugal. Notre marquis, c'est pour moi le divin marquis, notre marquis tout court pour Serge, s'est invité dans un mariage mondain. Nous révélons enfin le plan Saltiel qui aurait pu sauver la Sécu il y a déjà plus de 30 ans. Nous expliquons pourquoi ce plan n'a pas été mis en œuvre et pourquoi il est dans la clandestinité, il est tenu sous le boisseau. Voilà, nous avons, les lecteurs savent, j'aurais déjà, les auditeurs savent qu'il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels je passe dans les 24 pages que nous imprimons trois fois par mois dans ce libre journal. Et donc, si les sujets que j'ai eu le temps d'évoquer aujourd'hui ont retenu leur attention, ils peuvent se procurer un spécimen de ce numéro 302 en envoyant un carnet de timbre. Ils peuvent s'abonner, je crois que c'est une bonne affaire, ils peuvent s'abonner pour 110 euros, cela pour un an. Voilà l'adresse.
Bonne affaire, le mot est faible.
Oui, puisque c'est un véritable remède. Oui, Serge, vous savez, vous m'obligez à revenir sur la question. C'est quand même frappant que le Canard Enchaîné ne trouve rien de plus que nous à dire, alors qu'ils ont 200 fois nos moyens. C'est un calcul que je fais par rapport au tirage respectif.
Oui, mais ils sont vieux.
C'est peut-être ça. Peut-être qu'ils sont plus vieux que nous, beaucoup plus encore, et qu'ils attendent passivement les informations de leurs copains des ministères, alors que nous remuons un peu pour aller la chercher. Voilà. Nous allons dans le prochain numéro, nous allons, grâce à notre ami Daniel Amiche, que les auditeurs connaissent bien aussi, nous allons faire une démonstration implacable sur un sujet qui nous intéresse, à savoir le film La Passion de Mel Gibson. Nous allons faire la démonstration implacable de la façon dont travaillent les gros médias. C'est-à-dire que Daniel Amiche, dans son journal Le Légitimiste, et je crois qu'il va accepter, vous êtes en négociation avec lui pour qu'il nous rétrochette cet article, démontre point par point, c'est le cas de le dire puisqu'il s'agit d'un article du Point, que chaque paragraphe du Point consacré à ce film est faux, et il le démontre par A plus B.
Donc finalement vous avez le choix, ou vous achetez Le Légitimiste cette fois-ci, ou vous attendez la décade prochaine pour acheter Le Libre Journal.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les abonnés, ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui vont aujourd'hui ou demain envoyer leur chèque, ils savent pourquoi ils sont abonnés à ce petit média, parce que les gros médias recopient les uns sur les autres ou des calembredaines, ou des mensonges intéressés, et que nous, qui ne sommes pas ligotés ni par la publicité, ni par la richesse, ni par le plaisir de mentir, nous donnons des informations exactes.
Encore donc, le plaisir de mentir, ça pourrait passer, mais la richesse ou la publicité, non. Ça,
c'est sûr. Donc, on envoie un carnet de timbre pour avoir un spécimen, on envoie un chèque de 110 euros pour être abonné pendant un an à ce journal qui publie 24 pages trois fois par mois, on envoie ça à SDB 4... Place Franz Liszt, 75010, Paris.
Quelle bonne adresse. Pour m'écrire une seule adresse, la mienne. Voilà. Oui, je donnerai l'adresse du courriel de Loïc Leribaud tout à l'heure. Et bien maintenant, on donne la parole enfin à Cécilia et à son invité, Monsieur Pluvinage.
J'ai
vendu la mèche.
Je salue les auditeurs. Bonsoir Manuel Pluvinage. Vous êtes le responsable.
On n'a pas la musiquette ?
Eh bien, je ne sais pas pourquoi.
On est obligé.
Mais je n'ose pas. Je suis
c'est
timide.
De ma faute. Musiquette.
Musiquette. Je salue à nouveau les auditeurs et je remercie Manuel Pluvinage d'être des nôtres. Il est le responsable du potager du roi. Alors, responsable peut paraître un titre un peu vague, mais le potager du roi dépend de l'école du paysage qui a déjà un directeur. Donc, on a choisi un autre titre. Et il vient nous parler de son œuvre, là, de son enfant. C'est un petit peu le Lacantini du troisième millénaire, si vous voulez.
En tout cas, c'est une publicité vivante pour les légumes du potager d'Oran, parce qu'il resplendit de V5. Forme, ce garçon. Je peux dire ce garçon, parce que vous êtes tout jeune, non ?
Oh, 32 ans.
Vous pouvez être mon fils.
Alors, j'avais un bouquet d'annonces, je vais les écouter un petit peu pour gagner du temps, parce que tout le monde sait que j'ai un train à prendre et que je ne veux pas le rater. Je me contenterai donc de parler des journées de Courson, qui ont lieu cette année les 17, 18 et 19 octobre. Nos auditeurs commencent à connaître le lieu où ça se tient. Ça se tient donc à Courson-Monteloup, c'est au sud de Paris, près des Ulysses. Donc, que ce soit par le train, par la route, d'où qu'on vienne, on trouve assez facilement. Et cette année, les deux thèmes sont le Viburnum, un monde en soi, et ombres et plantations, le dilemme du jardinier. Les jardiniers qui ont beaucoup d'ombres dans leur jardin savent combien il est difficile de l'animer. Il y aura donc, comme d'habitude, tous les exposants avec des végétaux tout à fait agréables, quelques-uns assez rares, et d'une série de conférences. Alors je vais me contenter d'en présenter deux. Le vendredi 17 à 16h, les Viburnum, une famille à redécouvrir, de Roy Lancaster. Malheureusement, la conférence est en anglais. Mais il y aura la participation de Maurice Laurent, qui parlera français à côté. Et le samedi 18 octobre, pardon, à 11h, le latin de mon jardin, de Diane Adriansen, et qui signera ensuite son ouvrage intitulé « Le latin de mon jardin » aux éditions Larousse, un guide futé regroupant 1500 noms de plantes. Donc, les plantes portent aussi des noms latins. Et je trouve ça très intéressant.
Vous les connaissez tous, monsieur Pugnat, les noms latins de vos plantes? Oui.
Non.
Malheureusement, non.
Alors, je donne un numéro de téléphone où on se renseigne, parce qu'il y a des tarifs très variés selon qu'on est enfant, pas enfant, groupé et tout. On téléphone au 01 64 58 90 12, 01 64 58 90 12. Et ça se tient le vendredi après-midi de 14h à 18h. Et le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Voilà, c'est toujours un rendez-vous très intéressant que tous les amateurs de jardin connaissent. Ensuite, là, je vais parler pour une amie, Catherine de la Source, qui partage son temps entre Versailles et la Dordogne.
Il y a bien de la misère.
Elle possède une très jolie propriété en Dordogne où elle cultive, elle a créé un potager. Qui collectionne les primes et les prises et les médailles. Elle viendra en parler au printemps prochain. Elle fait tout, y compris les semences. Hein. Il est magnifique. Je l'ai visité le mois dernier. C'est une splendeur. Alors, elle organise... Alors, ça se tient à Pouté, tout près d'Aimé, au sud de Bergerac. Elle organise sa 12e journée des plantes et de la gastronomie, parce que Catherine est également une très bonne cuisinière. Le mardi 28 octobre prochain, de 9h30 à 18h, avec une participation de 6 euros. Alors, il y a un échange de plantes vivaces qu'on apporte racinées, étiquetées et rempotées, de graines ou de plantes aquatiques ou aromatiques, et des conférences et des démonstrations. Et là, il y a des choses extrêmement intéressantes. À 10h, Monsieur Monsiga, ingénieur horticole, intervenant à l'université Temps Libre de Bordeaux. J'aime beaucoup mieux l'expression Temps Libre que Troisième Âge.
Ah oui.
C'est beaucoup plus joli.
Senior aussi, c'est bien.
Alors,
senior.
Couleurs et volumes dans les jardins. À 11h30, Monsieur Blachon, paysagiste à aimer, viendra faire une démonstration conférence sur la méthode de taille d'arbustes à fleurs et de rosiers. Et Olivier Delpeuche, élagueur diplômé d'État, viendra faire une démonstration d'élagage et de déplacement dans les arbres. Parce qu'on ne se déplace pas n'importe comment, sous risque de chute.
C'est-à-dire qu'on se déplace assez facilement à la verticale. C'est à l'horizontale que c'est difficile.
Il donnera aussi une conférence sur les diverses maladies de l'arbre. Alors, si elle a le temps, il y aura une démonstration d'art floral avec des bouquets d'automne et de Noël. Bon, ça, je ne sais pas si elle aura le temps, parce que ça me paraît très chargé comme programme. Mais vers 13h, on procède à l'échange des plantes. Alors ensuite, on peut participer au repas. Et dans ces cas-là, on apporte un plat original et nouveau si possible, accompagné de 50 exemplaires photocopiés de la recette, parce qu'il y a un échange.
C'est bien ça.
Voilà, alors on peut, ou alors on peut apporter à boire. Dans la région, c'est pas très difficile, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de bons vins. Alors, si on veut participer au repas, il est bon de téléphoner au préalable pour dire si on apporte un dessert, une entrée. Donc, je donne un numéro de téléphone où on peut appeler à partir du 20 octobre, parce que Catherine, pour l'instant, n'est pas là-bas. C'est le 05 53 23 81. 05 53 23 81.
On le rappellera, non, puisque c'est le 20 octobre.
Il n'y a que 2, 4, 6, 8, je n'ai que 8 chiffres, c'est bien.
Bon, on le redonnera de toute façon. D'accord, ça se passe, rappelez où? À côté de Bergerac.
Aimé, tout à côté, au sud de Bergerac. Et je vous assure que ça vaut le détour. C'est vraiment très sympathique. Voilà, ensuite j'ai quelques livres. Vous aviez...
Une auditrice vous demande, je cherche le véritable potiron qu'on appelait la citrouille autrefois pour faire de la soupe.
Ah bah alors là, écoutez, je n'ai pas de réponse comme ça directe, mais j'en ai une indirecte, puisque j'ai un livre à présenter qui s'appelle Les courges. Alors, je ne l'ai pas apporté parce que je suis en train, il était très encombrant, mais je vais quand même en parler. Il est de... Nicole et Jean-Baptiste Prat, dont nous avions présenté il y a quelque temps le grand livre des légumes oubliés, et de Victor Renaud, qui était venu nous parler des tomates de son jardin et de son livre. Et donc, on parle de plus de 160 variétés de courges, le potiron bleu, le potimarron, le buttercup, etc. Et il y a 40 recettes de cuisine. Donc, il est publié par Rustica Édition, il coûte 24,80 €. Et il est remarquablement illustré. Il est lumineux, comme toujours quand on parle de courges et de citrouilles, il est extraordinaire. Et j'en profite pour signaler que tout près de chez moi, à Lautier, un petit village près de Souvigny, le 5 octobre, il y a la fête des potirons, hein, toute la journée.
Et alors, c'est là que les potirons, d'ailleurs.
Voilà. Alors, j'ai aussi une bonne nouvelle. J'avais présenté il y a quelque temps un livre pour enfants qui s'appelait « Mon véritable sorcière ». Et j'ai retrouvé le même livre, même présentation, même contenu, puisqu'il s'agit d'un livre coffret, qui est devenu désormais Mon jardin de magicienne.
Ah, c'est mieux.
Donc on a édulcoré le côté... Et c'est une deuxième bonne nouvelle, parce que ce sont les éditions Plumes de Carotte, à Toulouse, dont il fallait toujours donner l'adresse, parce qu'ils ne livraient que par correspondance. Or, maintenant, on le trouve dans les librairies, dans les rayons de livres pour enfants. Donc, je rappelle...
Ça s'appelle Mon jardin de magicienne.
Mon jardin de magicienne.
Aux éditions Plumes de Carotte.
Aux éditions Plumes de Carotte. Il est de... J'ai perdu Bernard Bertrand et Frédéric Lisac. Il est très, très joli, il amuse beaucoup les enfants. Et alors, j'ai un livre que connaît bien Manuel Pluvinage, qui s'appelle 300 ans d'histoire du fuchsia, qui est publié par une équipe de la Société nationale d'horticulture à l'occasion du tricentenaire de la découverte par le père Plumier. C'était un missionnaire franciscain qui a découvert le fuchsia, qui l'a acclimaté en France. Alors maintenant, on en recense plus de 300 espèces. Et alors voilà ce que m'écrit la présidente de la section fuchsia de la Société nationale d'horticulture de France. Je trouve ça très, très mignon. Notre livre sur les fuchsias qui a été réalisé par 4 membres du bureau fuchsia, et nous avons trimé 4 années durant pour récupérer les photos, etc. Et j'espère qu'il plaira. Alors, je l'espère moi aussi. Il raconte l'histoire du fuchsia, il parle un petit peu du fuchsia dans les arts et dans la poésie, et il recense toutes les espèces de fuchsia, toutes les variétés actuellement connues, et il coûte 18 €. Ce qui n'est pas très cher pour un livre de cette beauté. Et enfin, un petit bijou que j'ai découvert par hasard à Chaumont. La bourrache, une étoile au jardin, de Bernard Bertrand.
Ah, la bourrache, c'est la plante magique, ça.
Alors, dans une collection qui s'appelle Le Compagnon Végétal, aux éditions Terran, qui sont totalement inconnues, et parce qu'ils ne, eux aussi, ils ne livrent que par correspondance. Je vais donc donner leur adresse pour que nos auditeurs puissent demander le catalogue, parce que tous leurs ouvrages sont ravissants. Donc, ce sont les éditions Terran, T-E-2-R-A-N, 31-160, Sangouagnier, S-E-N-G-O-U-A-G-N-E-T. Et je donne le téléphone 05-61-88-81-08. J'ai donc ce soir, les volumes coûtent 11 € et prix franco de port, c'est 14 €. On peut demander le catalogue gratuit et je le conseille vivement parce que ce sont des petites merveilles. Alors celui-ci est donc de Bernard Bertrand, il est préféré de Pierre Valque, que Manuel Pluvinage connaît un peu particulièrement.
Oui, c'est le responsable de la bibliothèque de la Société nationale d'horticulture de France, qui rassemble un fonds tout à fait exceptionnel sur le plan historique.
Ce qui est vrai. Et alors ici, on donne son autre titre. Je crois qu'il a...
Il est également l'ancien conservateur du Jardin botanique de Nancy. De conservateur Nancy. Et créateur, voilà, du Jardin botanique de Nancy, qui est un des plus beaux jardins botaniques de France.
Alors, sous un très petit volume, c'est extrêmement
complet. C'est
très joli,
en plus.
On parle de l'ethnobotanique d'un astre végétal, le traité de botanique, une étoile au champ, une bonne étoile pour soulager nos maux, vierge, première pression, l'huile de bourrache et une table 4 étoiles. Et ensuite, un carnet d'adresses, on peut se procurer de la graine de bourrache et une bibliographie. Vous pouvez le feuilleter, il est ravissamment illustré. Alors, je répète, les éditions de Terran, je vais en semer dans mon jardin, 31-160, sans goût ânier. Et maintenant, nous en venons à Daniel Pluvinage, qui s'occupe donc du potager du roi, mais qui a connu un parcours atypique, pourrait-on dire, parce qu'on vous croirait ingénieur horticole, et ça n'est pas du tout le cas.
Non, donc...
Totalement différent.
Un parcours peut-être dirigé par l'atavisme, puisque je suis fils d'agronome, petit-fils d'agronome. Ma grand-mère était l'une des premières ingénieures agronomes de France. Et donc, lorsqu'on réussit ses études, on se dit, ben, on va pas faire comme toute la famille, on essaye de se distinguer. Donc, plutôt orienté vers les mathématiques, la sociologie, l'économie, l'école normale supérieure d'abord, l'agrégation d'histoire ensuite. Et puis finalement, les jardins de l'école normale étaient bien à l'abandon, donc on commence par y planter 2-3 fleurs, un pied de menthe, un pied de romarin. Puis on s'occupe de la totalité des jardins avec un petit budget dans le cadre du bicentenaire de l'école normale. Et puis la recherche nous mène également vers les jardins maraîchers de la banlieue parisienne, les jardins ouvriers. Et finalement, le jour où la proposition d'un poste à Versailles, à l'école nationale supérieure du paysage, donc qui a la charge du potager du roi, cette proposition forcément est acceptée. Et par le biais des circonstances internes, c'est la place de responsable du potager du roi qui finalement se libère et qui correspond tout à fait à mon profil et à ce que je souhaitais faire à la fois de l'histoire et dans un lieu qui est à l'origine de beaucoup des pratiques maraîchères et des potagers français, et en même temps donc avoir une petite exploitation puisque c'est plus de 20 personnes.
Je pense bien exemple de pesanteur de la tradition. Vous êtes ramené
Alors le potager du roi maintenant.
Alors le potager du roi, donc, beaucoup de gens le connaissent, mais peut-être rappeler quand même pour certains de vos auditeurs, donc créé lorsque Louis XIV s'installe avec la cour à Versailles, puisque le potager de Louis XIII était insuffisant.
Il donc, était à l'emplacement de la bibliothèque, je crois.
Oui, l'actuelle bibliothèque municipale et du square des Récollets. Et donc qui est créé à côté du château à la demande de Louis XIV sur un emplacement peu favorable puisque c'était un marécage appelé l'étang puant, marécage creusé pour faire l'étang des Suisses, le fameux étang où un certain nombre de gardes suisses ont perdu la vie suite aux maladies comme la malaria.
À ce point.
Et qui a été les travaux de Versailles, ça n'a pas été une mince affaire. Hein. C'est à la fois un miracle, en même temps beaucoup de souffrance derrière, beaucoup de morts. Et en même temps, donc, une partie de cet étang puant comblé avec des terres amenées par un convoyeur, des wagonnets sur roues, pour créer ce potager du roi, où donc, de 9 hectares dès les origines, où l'on cultivait donc des arbres fruitiers et des légumes exceptionnels, bien sûr. Le roi soleil se devait de dominer la nature, donc de pouvoir manger des asperges au mois de décembre, des fraises 9 mois sur 12, des figues dès le mois de mai.
Déjà à cette époque-là.
Et avec des moyens très faibles, c'est-à-dire que la Quintinine ne possède comme seul moyen de forçage des châssis, ces fameuses fenêtres vitrées, mais pas encore des grandes serres, quelques cloches, et puis la fermentation du fumier pour dégager de la chaleur. C'est tout.
Et il arrivait à faire des fraises
pas au mois de décembre, il arrivait dès le mois de mars pour les fraises, les salades 12 mois sur 12, les figues au mois de mai. Donc vraiment tout un jeu aussi sur l'architecture, par un jeu de murs qui favorise les microclimats, l'accumulation de la chaleur, des pratiques de taille particulières, des soins quotidiens. Les pêchers par exemple, au printemps, tous les soirs on rabaissait le drap devant les pêchers pour que les fleurs ne gèlent pas. Et le matin, une fois la gelée passée, on relevait les draps. Bon. C'était vraiment, on soignait les fruits du roi.
Et vous dites que vous avez un peu abandonné ce côté primeur, puisqu'on n'en a plus besoin.
Alors après, à travers les âges, c'est vrai que c'était resté un lieu d'excellence. On y a cultivé l'ananas, le café, la banane. Louis XV avait son propre café venant du potager.
D'où la célèbre expression, la France, ton café fout le camp.
L'ananas, qui était très apprécié en 1870 par Guillaume II. On a encore trace des livraisons au château de Versailles, des Prussiens occupant le château de Versailles et se faisant livrer les excellentes poires et les excellents ananas. Mais bon, forcément, avec le développement des techniques de serre, de chauffage, on a pu effectivement aller jusqu'à des prodiges et cultiver ces plantes tropicales à Versailles. Mais depuis le départ à la fois de l'école d'horticulture en 1995, de l'école nationale supérieure d'horticulture qui occupait le site depuis la fin du 19e siècle, le départ de cette école d'horticulture, le fait qu'aujourd'hui les végétaux tropicaux arrivent par avion, par bateau, que les pêches sont cultivées dans le sud de la France, on a plutôt opté pour une vision un peu plus naturelle et on cultive ce qui peut se cultiver quand même sous le climat parisien. parfois des choses quand même un peu plus étonnantes, mais sans utiliser trop d'artifices. Donc on a par exemple une très belle production de pêche qui s'étale du 15 juin à fin septembre, mais qui vient uniquement par des modes naturels, sans serre particulière, sans protection. Et on arrive donc à avoir d'excellentes pêches.
Vous n'avez pas à vous plaindre de la canicule, vous, du moins?
Alors, la canicule a quand même eu des effets particuliers. C'est-à-dire que la récolte de tomates, d'aubergines, de poivrons, de melons a été exceptionnelle. Très clairement, cette année, c'était une bonne année.
Très particulière des aubergines, d'ailleurs.
Oui, des aubergines très variées. On a eu cette année une dizaine de variétés. L'année dernière, on avait jusqu'à 30 variétés, puisqu'on exposait ce qu'on appelle les ressources génétiques, toute la diversité génétique des aubergines. Donc, on a des aubergines blanches, bien sûr violettes, des roses, mauves, striées, jaunes, rouges, vertes en forme de serpent, comme les doigts de la main. Mais sinon, donc la canicule a quand même eu des effets assez étonnants, c'est-à-dire que là, on a eu le sentiment que les végétaux avaient encaissé les premiers jours de canicule comme un événement possible, mais que la prolongation de la canicule avait provoqué réellement des brûlures, donc aussi bien sur les tomates que sur les fruits, on a beaucoup de fruits brûlés, qui d'ailleurs ont développé une partie liégeuse, hein. On a des pommes qui sont liégeuses sur un tiers ou un quart de leur surface, qui ne sont plus vendables, qui sont comestibles, mais qui ont réellement brûlé, qui ont développé des cicatrices.
Si je peux me permettre une petite anecdote personnelle, là j'ai supplié récemment un ami qui a une maison de campagne, un verger dans l'Aube, de me rapporter des pommes qui ont fait mes délices plusieurs fois au cours des années précédentes, et... J'espère qu'il n'écoute pas, parce que j'ai pas osé lui dire, et j'étais très déçu, parce que ces pommes, cette année, sont, pas liégeuses, mais sèches.
Alors, c'est vrai.
C'est possible ou je...
Oui, tout à fait. Non, il y a eu de grosses difficultés. Alors, les vergers professionnels, ont souvent des possibilités d'irrigation.
Non, c'est pas le cas. Ce sont des pommes de jardin, comme je dis.
Sur des vergers amateurs, on a de grosses difficultés. Nous-mêmes avons de l'irrigation sur les jeunes arbres, mais pas forcément sur les arbres âgés qui normalement n'en ont pas besoin. Un fond marécageux, normalement, un arbre en conditions normales qu'on ne cherche pas à pousser à une hyperproductivité peut trouver son content dans la terre. Là, cette année, on a été amené à arroser en urgence à tout le jardin, ce qui ne s'était jamais vu depuis 76.
C'est peut-être le moment de dire un petit mot de l'École nationale du paysage qui est installée là, parce qu'il y a un concours assez proche.
Alors oui, donc l'École nationale supérieure du paysage, qui était l'ancienne section Art des Jardins de l'École d'horticulture, qui s'est progressivement autonomisée et qui est donc responsable du site depuis 1995, donc recrute des jeunes à Bac+2 ou équivalent Bac+2 sur concours. Donc concours où on peut s'inscrire à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Et donc qui forment les paysagistes DPLG, diplômés par le gouvernement, et qui aujourd'hui sont à l'origine à la fois des parcs, des nouveaux parcs urbains, mais également d'aménagements le long des autoroutes, d'aménagements d'entrées de ville, de certaines réhabilitations de banlieue. Et donc ce sont 4 ans d'études et un diplôme, donc on sort à Bac+6.
On va vous demander une adresse.
Et... Voilà. Attendez tout de suite, alors, parce que je ne sais pas si ça correspond à la même chose. Une auditrice dit, j'ai un fils qui fait une école d'agronomie, prenez-vous des stagiaires, si oui, ou faut-il écrire? Est-ce que ça correspond à ce que vous dites?
Alors,
mais vous allez tout doucement, parce que je ne peux pas tout écrire, et les auditeurs non plus.
D'abord, d'accord. L'école du paysage, 6 rue Arbis.
L'école nationale.
L'École nationale supérieure du paysage.
Oui.
Donc, il se trouve 10 rue du Maréchal Joffre, à Versailles, 78 000. C'est à la fois l'adresse officielle de l'École du paysage, l'adresse du potager du roi, l'entrée du potager du roi et le lieu où se trouve notre boutique où nous vendons la totalité des fruits et légumes.
La rue Hardy n'est plus en usage.
Voilà, la rue Hardy est difficile d'accès. Et donc...
Oui, c'est vrai.
10 rue du Maréchal Joffre, 78 000, Versailles.
Voilà. Et on sort de là, paysagiste DPLG.
Oui, diplôme délivré par le gouvernement, comme les architectes.
Et pour s'inscrire, alors, vous donnez les renseignements.
On retire un dossier.
Voilà, vous envoyez un courrier en demandant le dossier d'inscription et le descriptif.
Est-ce que vous avez un téléphone?
Alors, pour les inscriptions, c'est le 01 39 24 62 00.
01 39 24 62 00.
Et pour les visites du potager, les renseignements sont au 01 39 24 62 62.
Plus vite, plus vite.
62.
Et alors, pour l'éventuel stagiaire
Alors, effectivement, nous prenons des stagiaires, non pas dans le cadre de l'école du paysage, puisque c'est une formation à part entière, mais dans le cadre du jardin, effectivement, on accueille des jeunes de la 4e jusqu'au DESS, c'est-à-dire des jeunes qui doivent faire leur premier stage en entreprise. On m'a encore fait une demande aujourd'hui, mais également des DESS en muséographie, puisque le potager du roi est un jardin historique qui cherche à valoriser cette histoire. Donc, on accueille également des stagiaires à ce niveau-là.
Alors là, on s'adresse à vous.
Voilà, on s'adresse à moi, donc Manuel Pluvinage, au potager du roi.
C'est pas mal comme carte de visite.
Non, ça mais il n'en a pas. Vous en avez maintenant.
Vous savez, l'État actuellement a quelques difficultés.
Moi, je les ferai graver à mes frais chez l'imprimeur le plus cher de Paris. Mais enfin bon, si vous êtes modeste, tant pis pour vous.
Alors, on fait des choses très intéressantes qu'on va présenter d'ici 10 jours. C'est qu'on grave sur les fruits maintenant.
On reprend
une technique qui existait au XVIIIe siècle, qui avait été développée à Montreuil, en banlieue parisienne. Le fameux Montreuil aux pêches à l'époque, maintenant Montreuil sous bois. Et les arboriculteurs, pour identifier leurs produits, avaient imaginé que lorsqu'on ensachait les fruits, puisqu'on mettait des sachets pour les protéger des insectes, de la chaleur, de certaines maladies, on ouvrait les sachets quelques jours avant la récolte pour que le fruit prenne de la couleur, et on s'est aperçu qu'en mettant un petit pochoir noir, le fruit devenait rouge, sauf à l'endroit du pochoir. Et donc, les arboriculteurs signaient leurs fruits. Et donc, nous allons présenter, pour la deuxième année consécutive, des fruits signés Lacantini avec le profil de Lacantini.
Ça ouvre des perspectives. Ça, si on va voir un mauvais spectacle, on peut envoyer des tomates signées. Voilà.
Alors, la tomate ne fonctionne pas, malheureusement. L'aubergine peut fonctionner.
Les courges.
Alors, on a une splendide exposition de courges actuellement depuis le week-end du patrimoine jusqu'au 19 octobre. Une exposition donc d'une artiste, Françoise Jolivet, qui a repris la technique de gravage des courges qui est connue de tous les enfants, mais qui l'a systématisée et qui a fait de véritables œuvres d'art sur ces courges. Elle en a gravé plus de 25 et elle a essayé d'en conserver par la technique du séchage, tannage. Elle a réalisé un certain nombre d'œuvres sur parchemin en combinant tannage et dessin. Et elle a également exposé donc les 25 potirons qu'elle a gravés cette année, qui sont tout à fait fantastiques.
Et on peut voir cette exposition?
Alors, cette exposition est ouverte tous les jours, mais vous pouvez rencontrer l'artiste les week-ends, donc les samedis et dimanches, au Potager du Roi, puisque le Potager du Roi est ouvert tous les jours d'avril à octobre. Et donc, avec une entrée qui est à 4,50€ en semaine, puisqu'il s'agit d'une visite libre sans visite guidée, et à 6,50€ le week-end, puisqu'il y a des visites guidées qui partent toutes les heures, mais vous pouvez également vous promener librement dans le jardin sans suivre la visite guidée.
Et l'exposition a lieu jusqu'à...
Alors, l'exposition a lieu jusqu'au 19 octobre.
Bon, donc jusqu'au 19 octobre. On peut encore en profiter. Alors, vous avez deux autres événements assez proches.
Alors,
la fête des plantes.
L'automne est vraiment une saison très chargée pour le potager du roi. C'est la saison à la fois des récoltes, la rentrée des étudiants et en même temps la période d'un certain nombre de salons d'automne. Il y avait Hortie Livre donc le week-end dernier à l'Orangerie du Luxembourg.
On a déjà annoncé.
Voilà, la fête des plantes donc de Versailles qui se trouve sur le parvis de la cathédrale.
Ça c'est merveilleux, c'est un cadre merveilleux.
Oui, vraiment le parvis de la cathédrale Saint-Louis a été restauré il y a maintenant 3 ans et c'est donc une place vraiment à l'échelle de Versailles mais en même temps de la ville et donc devant cette cathédrale qui date des années 1740. Et donc, depuis maintenant un an, donc la ville organise une fête des plantes où l'on retrouve beaucoup d'exposants, de coursons ou d'autres fêtes des plantes, là sur le mode de la gratuité, donc quelque chose de plus...
C'est un avantage.
Voilà, de plus convivial et en même temps de plus urbain, donc juste à côté du potager du roi. Dans le cadre donc de cette fête des plantes, donc le potager du roi sera ouvert à tarif réduit, donc 3€ le samedi, et le dimanche à tarif normal, mais avec un spectacle théâtral qui va permettre d'inaugurer la saison Saint-Pétersbourgeoise, puisque vous savez que cette année, on fête le tricentenaire de la fondation de Saint-Pétersbourg, ville impériale, ville royale jumelée à Versailles. Et donc, on va inaugurer cette saison Saint-Pétersbourgeoise en réalisant un spectacle au potager sur le thème de la visite à Versailles en 1903 du tsar Nicolas II venu offrir une variété de pommes de terre.
Je pense que les Versaillais apprécieront cette manifestation davantage que celle qui a consisté à célébrer l'Octobre rouge dans le décor du château de Versailles. Comme nous l'avons écrit dans le Libre Journal, le Comintern chez Louis XIV, il fallait y penser. Mais c'est peut-être dû à la présence d'un maire, Monsieur Pinte, qui s'est empressé de fonder une association pour faire venir davantage d'immigrés clandestins, et en tout cas pour protéger ceux qui sont déjà en place. C'est un peu surprenant. Je le dis sans plus de mauvais esprit que ça, et je veux pas vous qui travaillez là-bas vous faire aucun commentaire. Mais c'est moi qui le dis à nos nombreux auditeurs de Versailles. Je ne sais pas comment ils s'y prennent pour élire quelqu'un qui frise, qui a étiqueté UMP, qui frise le gauchisme quand même, ce monsieur Pinte. Ils sont très bizarres quand même, nos amis, nos nombreux amis versaillais.
Alors, je ne ferai pas de remarques sur monsieur Pinte, avec qui nous avons vraiment des très bonnes relations. Nous avons réussi par exemple à rouvrir le parc Balbi qui était fermé depuis plusieurs années. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un rapport entre le stalinisme, le communisme et Versailles. C'est quand même un urbanisme assez proche, finalement.
Concentrationnaire, vous voulez dire ?
À la fois concentrationnaire, les grandes avenues, ces grandes perspectives. Moscou, Versailles, il y a ces mêmes perspectives.
Et Saint-Pétersbourg, Versailles, vous voulez dire ?
Même Moscou, je veux dire, parce que malheureusement, Saint-Pétersbourg, c'est comme Versailles, c'est joli, c'est grandiose, mais c'est joli. Bon, après, Moscou, c'est grandiose, mais ça n'est plus joli.
Et vous parlez de l'architecture stalinienne à Moscou, et vous la comparez à celle de Versailles, mais je crois que vous auriez eu moins d'ennuis en disant du mal de M. Pinte, là. Vous allez avoir des coups de téléphone et des lettres.
Il n'a pas entièrement tort quand on voit ce qui a été fait pour la poste, qui est quand même à deux pas du château. C'est une horreur. À Versailles.
Non, mais je crois que M. Pluvinage nous parle de l'architecture de Louis XIV.
De l'urbanisme. Oui. C'est ce côté.
Mais alors, Versailles, c'est beau, rond. Ça passe, mais à ce moment-là.
Versailles rond avec l'idée médiévale, les ruelles, avec. C'est cette idée de grande perspective. Qu'il n'y avait pas encore en Italie à l'époque du baroque, la place du Vatican que l'on connaît aujourd'hui, elle n'était pas du tout comme ça à l'époque du Bernin, puisqu'il n'y avait que la place. Donc on arrivait, on avait cet effet de surprise. Aujourd'hui, on a cette avenue créée par Mussolini qui, du coup, finalement, vous avez vu Saint-Pierre de 3 km, vous approchez, c'est toujours la même chose. Alors que, imaginez-vous avant, vous arriviez à travers
à travers
des ruelles probablement sombres et malfamées. Vous arriviez devant cette place, c'était une illumination. Mm-hmm. Et c'est vrai que la Versailles rompt complètement avec cette idée et avec cette immense perspective. Et finalement, parfois un peu décevante quand on arrive sur la place d'Armes. Le château de l'autre côté, vu des jardins, est tout à fait splendide. Mais moi, je trouve que l'arrivée côté place d'Armes est parfois, quand on dit c'est le plus beau château de France, le plus impressionnant, c'est un peu plat. Alors quand on arrive dans la cour de marbre, là on retrouve le charme du château Louis XIII, et c'est tout autre chose. Mais d'ailleurs, Louis XIV avait hésité à le supprimer.
Encore justement, a-t-il tenu ? C'est lui qui a tenu à conserver le château de son père. Parce qu'on a fait des pressions sur lui en lui disant, mais non, sire, c'est pas comme ça, ça n'ira pas, etc. Bon, enfin ça nous écarte un peu de nos pattes. Alors qu'est-ce que vous allez proposer aux visiteurs pour la journée des plantes ?
Ce spectacle, pour le dimanche 5 octobre, et le week-end suivant, donc juste avant le début de la semaine du goût, qui commence le 13, mais beaucoup d'événements ont lieu en fait le week-end des 11 et 12, sur le marché Notre-Dame à Versailles, dégustation gratuite de la part des artisans du marché, donc ils vont faire une dégustation de chocolat.
Les Versaillais sont quand même chouchoutés.
Le marché de Versailles, c'est quelque chose de merveilleux, ça vaut le déplacement.
C'est probablement l'un des plus beaux marchés de l'Ouest parisien, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fantastique. Malheureusement pour nous, il a été un peu loin du potager du roi, et donc on n'a pas une production suffisante pour pouvoir aller également sur le marché de Notre-Dame et vendre sur place. Et donc au potager du roi, par contre, donc les samedis, donc le potager du roi sera présent sur ce marché Notre-Dame pour ses dégustations, qui ont lieu donc le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 13h. Et au potager du roi, en revanche, de 10h à 18h, aussi bien le vendredi, le samedi que le dimanche, donc notre grand marché d'automne, nous présentons toutes nos collections de pommes, de poires, de courges, les potirons gravés de François Jolivet, les fruits marqués à la manière de Montreuil, une restauration possible sur place, beaucoup d'animations pour les enfants, une extraction de miel, un jus de pomme, des fabrications de bougies, des reconnaissances d'herbes, de plantes médicinales, les fameuses herbes fines.
J'adore l'expression.
Voilà, Lacantini, dans son traité, disait, dans chaque potager, il faut avoir ses herbes fines, et donc donner une liste de une quarantaine de plantes, ce qu'on appelle aujourd'hui les fines herbes, et où on trouve des choses qui aujourd'hui reviennent à la mode, comme le basilic, la rouquette, et qui étaient des choses très communes du temps de Louis XIV, et qui finalement ont disparu parce que considérées comme trop fortes en goût. Et Louis XIV aimait les asperges blanches, les laitues paumées, les choses un peu fades, qui finalement ont abouti jusqu'aujourd'hui aux endives, qui sont quand même pas un produit de terroir particulièrement marqué, et c'est vrai que donc aujourd'hui on retrouve via la cuisine provençale, la cuisine méditerranéenne, des goûts plus prononcés, et donc à Versailles nous relançons ces cultures.
Alors il y a deux questions d'auditeurs et une protestation. Alors là on dit un auditeur de Saint-Geneviève.
Alors oui, les figues de Versailles. Donc effectivement Louis XIV adorait les figues, aussi bien les blanches que les noires, et donc la Quintigny les cultivait. Donc, c'était les figues noires. Aujourd'hui, on dit les figues violettes, mais c'était les figues noires.
Oui.
Et donc, on les cultivait en bac, et les bacs étaient rentrés dans une sorte de cave, comme une orangerie, donc qui s'appelait la figuerie. Plus tard, au 19e siècle, on les a cultivés en pleine terre, en les couchant pendant l'hiver, en les protégeant par un manteau de terre et de paille.
Mais quel personnel avait-il par rapport à vous? Qui n'a déjà pas tellement mal loti de ce côté-là.
Donc, il avait entre 30 et 40 jardiniers et éventuellement l'appui pour un certain nombre de corvées, le personnel du château. Mais donc, aujourd'hui, une douche jardinier et effectivement, souvent des difficultés pour réussir à avoir des cultures très, très...
Si j'ai droit à une dernière question, je viens d'entendre il y a quelques jours sur une autre radio, et vous allez peut-être me prouver que j'ai tort d'écouter une autre radio que Radio Courtoisie.
Là, on en parlera après.
Oui.
Qu'il y avait des figuiers mâles et des figuiers femelles, et que seuls ces derniers donnaient des fruits.
Alors, la sexualité du figuier était quelque chose d'extrêmement complexe. Je n'ai pas encore tout compris. Pour quelques compétences dans le domaine, j'ai essayé de lire ce que les botanistes pouvaient écrire. On va probablement faire d'ailleurs une exposition d'ici 2 à 3 ans sur ce sujet, puisque en fait, les figuiers, effectivement, il existe des figuiers mâles et des figuiers dits mâles et des figuiers dits femelles, puisqu'en fait, ce ne sont pas réellement des fleurs mâles ou des fleurs femelles, mais qui sont fécondées.
Le figuier pride, alors.
Les fleurs sont hermaphrodites, mais certaines ont développé effectivement des propensions plutôt à la masculinité, d'autres à la féminité, et il faut donc la présence d'une mouche, la blastophaga, pour assurer cette pollinisation. Donc, dans les pays méditerranéens, on sait très bien favoriser la présence de cette mouche, aller la chercher éventuellement dans la nature et l'introduire dans les figuiers.
Comme alors là, j'ai envie de dire aux évolutionnistes, prends ça dans les dents, parce qu'il faudra qu'ils nous expliquent comment ça marche.
Alors, les figuiers cultivés par Louis XIV avaient une caractéristique de certains fruits, c'était d'être parthénocarpiques, de pouvoir faire des fruits sans accouplement, finalement sans fécondation. Hein. Donc, on n'a pas besoin en région parisienne, avec les variétés développées en région parisienne, de cette fécondation ni de cette mouche.
Quand on entend ça, ça ouvre des horizons intéressants sur la parabole du figuier stérile.
Le figuier, effectivement, était quelque chose... Les observations, quand on voit aujourd'hui, on a les outils de la génétique, du microscope pour observer ce qui se passe, mais les écrits des agronomes latins sont tout à fait exacts en termes d'observation. Mmh. L'interprétation, effectivement, des fois un petit peu déficiente, qui n'a pas la théorie génétique ou les outils de compréhension, mais les observations étaient parfaites.
Alors, j'étais pas là pendant que vous parliez avec M. Pluvinage, mais j'ai vu arriver un message. Je vous le livre parce que, pour vous montrer les cheminements retors de la pensée ou tortueux de la pensée, un monsieur ou une dame, j'ai pas bien vu, qui disait: votre jeune invité a-t-il appartenu aux jeunesses communistes? Alors je voudrais qu'on m'explique comment, parlant du potager du roi, on peut en conclure que vous avez appartenu aux jeunesses communistes.
Au contraire, il protestait contre cet urbanisme communiste et mussolinien qui défigurait presque à ses yeux le Vatican. Parce qu'avant, on arrivait par une série de...
On
avait le choc en arrivant, et maintenant on arrive par une avenue de 3 km.
Moi, je suis un partisan de
l'auditeur ne l'a pas entendu, ne l'a pas écouté.
On a une petite fraction d'auditeurs qui ne supportent pas 2h, 2h30 d'émission et qui se deviennent mal comprenants et qui nous demandent pourquoi on dit blanc à chaque fois qu'on dit noir.
Ils doivent légèrement somnoler parce que là, ils n'ont pas compris du tout ce qu'on dit.
Là, vous prenez la place de Lugan. Celui qui engueule les auditeurs dans cette émission, c'est Lugan. C'est bien.
Et alors, vous avez répondu à cet auditeur, il voulait donc... Vous avez parlé des filles.
Oui, elles sont à la fois blanches et noires, on dirait aujourd'hui violettes. Et donc, à peau épaisse, là, par contre, on a du mal à... La conservation des variétés n'est pas toujours quelque chose de certain. Donc, on n'a pas aujourd'hui... on sait bien quel était le nom de la variété, par exemple, de poire consommée par Louis XIV. On a des variétés qui ont le même nom aujourd'hui. Mais dire que c'est exactement la même chose sur le plan génétique, c'est quelque chose, une affirmation.
Louis XIV qui, dit-on, les greffes, apprenait les greffes en cachette avec le nôtre. Hein. Ça se dit. Je l'ai lu.
Mais Louis XIV aimait beaucoup, et de nombreux aristocrates avec lui aimaient beaucoup l'art de la taille, les fruits. Les fruits ont toujours été considérés comme une activité noble dans le jardinage. Mmh. On n'a pas d'exemple d'aristocrate au XVIIe siècle cultivant des légumes, arrachant des mauvaises herbes. Par contre, taillant des arbres, formant les arbres, tout simplement parce qu'il y a des métaphores autour de la formation de l'arbre et de la formation de la société. Et à la fois, c'est la tailler pour la rendre productive.
Puis ça évite de mettre un genou en terre.
Également, c'est l'arbre. Puis l'arbre, ça a toujours quelque chose d'aérien. Et dans l'alimentation aussi, les fruits se sont introduits dans l'alimentation aristocratique beaucoup plus tôt que les légumes. C'est d'ailleurs Louis XIV qui va populariser un certain nombre de légumes, comme le petit pois, et pas pour des raisons diététiques. Hein. Les médecins condamnaient ça.
Ah bon,
ça. Le petit pois, ça entraîne quelques gaz, ça pousse sur du fumier, c'est de l'eau, c'est pas nourrissant. Donc il y avait tout.
Mais je crois que Saint-Hildegarde n'aimait pas beaucoup le petit pois. Je sais en tout cas qu'elle déteste la fraise, qu'elle condamne de toutes ses forces.
J'aime bien cette île de garde, mais je continuerai à manger des fraises. Surtout que vous avez une collection de fraisiers.
On a une vingtaine de variétés de fraisiers. On essaie d'expliquer l'histoire de la sélection du fraisier, comment on est arrivé de la fraise des bois, grâce à des introductions américaines, à des hybridations qui permettent d'avoir ces grosses fraises. Alors aujourd'hui, sans goût.
C'est exactement comme en Irak. Vous allez voir qu'en quelques années, les Irakiens, on aura des gros Irakiens grâce à l'introduction des spécialités américaines.
Mais également, comment aujourd'hui, on arrive peut-être aussi à faire des choses peut-être plus intéressantes, comme des fraises qui sont connues d'un peu de tout le monde aujourd'hui, la mara des bois, la gariguette, qui consiste à utiliser des croisements avec des choses plus anciennes et à retrouver quand même un semblant de goût, mais parfois aussi avec des prix plus élevés, puisque tout simplement le goût ne va pas sans des techniques de récolte, des choses plus difficiles, donc forcément.
Très bien.
Au sud de la Loire, on mange des fraises exquises, je vous le garantis. On va venir me voir. Alors là, c'est une protestataire.
Qui évoque le fait que le petit parc du château de Versailles soit aujourd'hui payant. Donc là, moi, j'ai pas à me prononcer dans la mesure où le potager du roi ne fait pas partie du petit parc de Versailles, où le potager du roi est payant depuis l'entrée du potager du roi existe en fait depuis 1991. Auparavant, c'était fermé au public. Depuis qu'il est ouvert au public, effectivement, il est payant.
Pour les Versaillais, c'est ça le.
Alors, serait-ce Monsieur Étienne Pinte le coupable?
Elle le dit parce qu'elle dit que de Maître Damien, c'était mieux.
Il l'a déjà beaucoup engagé.
Non, c'est une auditrice mécontente. Versaillaise.
Non, je crois que
ça. Voter pour
l'Esquin.
L'Esquin, voilà, voter l'Esquin, il fera les potagers gratuits.
Alors, le potager du roi est payant à la fois parce qu'il faut financer son entretien, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une charge assez lourde et je crois que les visiteurs le comprennent bien, que cela demande une rémunération. Et par ailleurs, c'est un lieu à protéger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser tout le monde entrer en foule gratuitement.
Il a été victime de la tempête de 99 aussi.
Alors, le potager lui-même n'a pas été réellement victime, dans la mesure où les arbres sont taillés.
Et en espalier, aucune
branche, il n'y a pas eu une seule branche de cassée. Par contre, les châssis qui étaient dans le potager se sont envolés, ont été projetés contre les murs, on a retrouvé des morceaux de verre imbriqués dans les branches. Et puis les platanes qui se trouvaient sur la pièce d'Odessus juste à côté se sont abattues sur les murs du potager et là on fait de gros dégâts.
Alors, je suis totalement incompétente. Hein.
Le domaine de Versailles ne dépend pas de la municipalité. C'est tout à fait la réponse que je vous ai faite. Voilà.
C'est Monsieur Pinte qui téléphone.
Et on peut aussi signaler quand même qu'il y a aussi une nouvelle équipe de jardiniers à Versailles qui s'inspire beaucoup de Chaumont et qui a fait cette année une décoration florale de tous les parterres, de toutes les avenues et tout, superbe, à base de légumes. Ça ne plaît pas beaucoup pour Versailles, mais il faut qu'ils apprennent à regarder et à voir et à sentir la beauté de ces décorations qui sont vraiment étonnantes.
C'est sur la piste des choses qui avaient été faites à Villandry déjà depuis plusieurs décennies.
On arrive à avoir maintenant
des massifs qui ont du volume,
avec
qui ont du caractère.
Avec des rhubarbes rouges, avec des graminées.
En tout cas, moi qui vois
les invités,
Cécilia, qui viennent nous inviter assez souvent, des responsables des jardins, des parcs, des potagers de Versailles, il y a une chose qui les unit, c'est tous qui portent sur le visage le bonheur de leur travail.
Mais vous savez qu'il n'y a pas plus heureux qu'un jardinier. Vous vous souvenez que Saint-Exupéry disait « J'avais la vocation de jardinier ». C'est peut-être mieux pour les lettres qu'il ait été écrivain, mais, et puis pour l'aviation aussi qu'il ait été pilote, mais il regrettait de ne pas être jardinier.
Ouais. Moi, malheureusement, je regrette aussi
vous
de ne pas être
pas
davantage.
Un vrai jardinier,
je suis pas
mais
un jardinier,
pas
je suis un jardinier amateur. Et puis, finalement, beaucoup un administrateur.
Le, bon. Le paradis terrestre n'était-ce pas un jardin?
Voilà.
Bien
voilà.
Vu, jeune homme. Vous avez gagné
alors,
un point de plus
on
vers
va
le paradis.
Redonnez, rendez-vous donc aux auditeurs à Versailles. Redonnez vos dates.
Donc, les saveurs du potager du roi, les 10, 11 et 12 octobre, de 10h à 18h. Avec une possibilité donc de parking sur la pièce d'Odé Suisse.
Bon, un auditeur est très gentil. Votre train. Non, ça prouve qu'il en a assez. Ça prouve qu'il en a assez. On s'en va. Alors, je leur donne rendez-vous le 12 novembre. Voilà.
Merci Cécilia, merci Monsieur
merci
Pouvidal.
Merci à vous. Votre
c'était
votre
passionnant.
Merci
à entrez, chers
Pouvidal,
amis. Ils attendaient patiemment. Je les ai trompés de façon.
Pendant le jeu des chaises musicales, Serge, j'ai 30 secondes pour parler de musique. Alors, et pour dire aux jeunes auditeurs qu'ils me déçoivent beaucoup, parce que j'ai sollicité tout à l'heure un raz-de-marée de coups de téléphone pour que le rap de Bekesh devienne le nouvel indicatif de l'émission. Ouais. Et en tout et pour tout, j'ai un message grincheux qui dit « Monsieur de Bekesh, c'est bien gentil de passer de la musique rock, encore faudrait-il en donner les références ?» Alors je soupçonne fort que ce n'est même pas un jeune, mais l'éditeur du disque de riff que nous avons passé à la fin de la séquence Marine Le Pen. Parce que, en ce qui concerne donc le rap de Bekesh, je répète qu'il n'y a pas de référence, puisque et je vous restitue votre bien Serge, puisque c'est un CD unique, jusqu'à maintenant qu'il n'est pas encore commercialisé, je ne sais pas s'il va l'être, puisque les jeunes ne se décident pas à le réclamer, et que je peux seulement dire pour donc le morceau qu'on a passé à la fin de l'émission, qu'il s'intitulait Boucherie, et que nous l'avons extrait d'un disque, d'un CD de 1979 qui s'appelle Sur les Terres.
79
Non, pardon. Pourquoi j'ai dit 79
ah, parce que vous avez bu, mon
oui. Non, ça date de 2001. Ah, copyright bon. 2001, Memorial Records. Donc ce morceau s'appelait Boucherie, et c'est extrait de Sur les Terres du Riff, acte 2. Alors,
c'est
encore...
le rock identitaire français.
Ah, c'est donc du rock.
C'est pas du rock against police.
J'allais dire, c'est pas du rock, c'est du riff. J'allais dire une grosse bêtise. Donc, c'est du rock identitaire français. Alors donc, s'il y a encore des jeunes à l'écoute et qu'ils ont encore la force et qui s'intéressent donc à cette production, ils peuvent obtenir un catalogue gratuit sur simple demande à papier crayon, Memorial Records, Memorial Records, 23 rue Le Courbe, 75 015, Paris.
C'est clair. Oh, c'est clair.
Oh, c'est clair.
Ouais. Oh, c'est clair, c'est bon.
Deux auditrices,
c'est cool.
Deux auditrices vous disent qui est devenu notre cher marquis, et une autre, quand recevrez-vous le prof de piano sans solfège?
Alors, le marquis va revenir bientôt, mais il a pris quelques vacances. Le marquis, après tout, c'est pas la peine d'être marquis si on peut pas partir en vacances.
Il les raconte dans le numéro 302 qui vient apparaître du Libre Journal.
Il raconte un épisode. Quant au prof de piano sans solfège, il a repris ses cours, puisqu'il est revenu me donner des leçons. Moi, je commence à virtuoser. Là, j'arrive à jouer pratiquement au clair de la lune sans regarder le clavier.
Oh, tu es bête.
Non, ça marche bien. Et il a repris. Ben, si vous voulez...
Il était en pleine forme.
Il s'appelle Pierre-Marie. Je le rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un personnage plus que Peter, et c'est un personnage extravagant, mais dans le bon sens du terme, de gentillesse, de disponibilité, de drôlerie, de...
Il n'a pas le téléphone quand même, Serge.
Non, il ne veut pas donner son téléphone.
Donc il faut lui écrire à SDB.
On peut écrire à SDB, ou, alors ma petite femme va encore me dire, mais tu te rends pas compte, j'ai pas le temps de répondre au téléphone. On peut téléphoner à partir de demain au 01 45 23 29 non pardon 01 vite, 45 23 51 01. On donne son numéro de téléphone et je transmets à Pierre-Marie qui appelle
au charbon. Daniel,
voilà, je suis désolé ma chérie, mais qu'est-ce que tu veux, je suis obligé, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Message personnel, ça va?
Oui, très bien.
Vous avez tout compris?
Oui.
Très bien quand même, hein. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous venez nous parler de la traditionnelle marche pour la vie.
Organisée par Renaissance catholique pour la 13e année consécutive.
Alors, je reçois M. Duchalard et M. Davignon.
Exactement.
Il faut que vous parliez devant le micro.
Ah oui.
Autrement, dont les fonctions sont quoi?
On a des responsabilités au sein de Renaissance catholique, tous les deux.
Tous les deux.
Donc,
on connaît cette manche, c'est la 13e, effectivement.
C'est la 13e et donc qui aura lieu entre Notre-Dame-des-Victoires et le Sacré-Cœur de Montmartre. À l'intérieur de ces deux basiliques, nous aurons des cérémonies religieuses. Une vers 17h30, 18h, à l'intérieur de Notre-Dame des Victoires.
Et ensuite... C'était la basilique préférée de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus.
Absolument. Et aujourd'hui, elle était fêtée au sein par une messe célébrée par Monseigneur Dornelas à midi un quart. Il y aura ce départ à partir de la basilique Notre-Dame des Victoires, et ensuite cette marche jusqu'à Montmartre.
Le 18 octobre.
Voilà. Et le lieu de rendez-vous, donc, est devant Notre-Dame des Victoires à 17h30, avant de rentrer à l'intérieur, où nous aurons
une cérémonie.
Métro-Bourse, absolument, Métro-Bourse. Et nous aurons à l'intérieur une bénédiction des cierges avant le démarrage de la marche jusqu'à Montmartre, où aura lieu le salut du Saint-Sacrement à 20h exactement.
Et qui suit pratiquement le chemin de Saint-Denis.
À peu près.
On passera par Opéra, à Clichy, à la place de Clichy, et puis Sacré-Cœur de Montmartre.
Quelle est la fréquentation de cette marche, d'après vous? Vous avez des évaluations des années précédentes?
Il y a plusieurs centaines de personnes. Je dirais pas plusieurs milliers, mais on espérerait, même plusieurs centaines de milliers, on espérerait, parce
oui,
que
ça,
par rapport
après,
marche qui est une marche de prière pour invoquer justement que la Providence aide à combattre ces lois de mort qui s'aggravent tous les jours, puisque dans quelques mois vont venir les pseudo-lois de bioéthique qui vont encore aggraver la situation de la vie de l'enfant à naître. Depuis 1974, nous allons de désastre en désastre, et donc cette marche qui est une marche spirituelle demande un renfort de la Providence par rapport aux forces du mal qui se déchaînent dans les lois.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette marche, elle c'est aussi une occasion de réconciliation générale autour d'un sujet qui est un sujet
phare. Oui, ça c'est très intéressant, ce que vous dites là.
Et vraiment, je vois le comité d'honneur et de soutien, qui est présidé par mon ami Daniel Raffard-Debré, notre ami Daniel Raffard-Debré.
Absolument.
Comprend des gens de tous les horizons. Sans aucune exclusivité.
Ça, c'est un truc très intéressant. C'est un signe de plus grande perméabilité entre les différentes composantes du catholicisme. Et je crois que ça, c'est une chose qu'il faut souligner. Alors, il faudrait le souligner en donnant des noms.
Oui, il y a Gagnon, le cardinal Stickler. Voilà. Enfin, je vous laisse.
Donc, il y a Monseigneur Le Gall, l'évêque aux armées. Il n'est pas sur le tract qu'on a distribué, puisqu'on vient d'avoir la réponse il y a deux jours. Monseigneur Quatennens d'Avignon, l'archevêque d'Avignon, alors ça c'est une chose très intéressante, parce qu'il s'était déjà levé au mois de mai,
oui, c'est lui qui
a... avec des déclarations fracassantes, et bien il a osé se mouiller et nous soutenir, ce qui est une...
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de prélats, de hauts prélats.
Voilà, ça c'est un basculement, à mon avis, qu'il faut observer, et j'espère que ça va s'amplifier.
Et alors, c'est
très intéressant, ça.
C'est l'innovation, j'allais dire, cette année, c'est que nous avons justement créé ce comité d'honneur et de soutien. Jusqu'ici, c'était uniquement Renaissance catholique qui organisait cette marche. Et nous avons eu l'idée de créer ce comité d'honneur et de soutien pour amplifier cette marche. Et finalement, ça a beaucoup mieux réussi qu'on l'espérait, puisqu'on a quand même deux cardinaux qui nous soutiennent, cardinaux Gagnon et Stickler. Il y a trois évêques français. Et Monseigneur Quatennens, qui n'est pas sur le track du comité de soutien, puisqu'on vient de recevoir son accord, je vais vous lire la lettre qu'il vient de nous écrire. Chers amis, à la veille de votre marche pour la vie, je ne peux que soutenir tous ceux qui, dans la ligne de notre pape Jean-Paul II, œuvrent contre la culture de la mort, qu'il s'agisse de l'avortement, de l'euthanasie, du clonage ou de toute manipulation sur des embryons vivants. L'homme est homme, de l'utérus au sépulcre. Et la vie est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait pour que nous puissions devenir ses enfants bien-aimés dans l'unique bien-aimé. Je vous assure de ma prière à toutes vos intentions.
C'est formidable, parce que c'est pas une lettre conventionnelle, c'est pas un petit papier qu'on envoie chez les amis.
Petit détail, l'homme est l'homme de l'usurus au sépulcre, c'est une expression de Léon Blois, qu'il avait déjà employé au mois de mai précédemment, parce que dans sa déclaration au mois de mai était quand même pas mal. Si je vais la relire en partie seulement, juste une petite partie. Je suis loin de fermer les yeux devant tous ces germes de mort qui habitent notre société. Je ne saurais rester insensible devant des chiffres qui m'annoncent qu'il y a plus de 250 000 avortements chaque année dans mon pays. 250 000 crimes, employez les mots. Vous comprenez. Je ne saurais me taire, il met un point d'exclamation. Nous devons dénoncer l'intolérable d'une société qu'une société justifie sans pour autant juger les personnes, car Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Mais un crime, objectivement, reste un crime, car, selon les mots de Léon Blois, yep.
Alors, faut-il s'en étonner? Excusez-moi, Serge, vous savez que je suis, c'est vous d'ailleurs qui en avez décidé, je suis le Huron là qui pose des questions naïves.
Très bon.
Au nom d'une fraction de nos auditeurs qui n'en savent pas plus que moi. Faut-il s'en étonner? Autrement dit, est-ce que vous évoquiez tout à l'heure les différentes composantes, avez-vous dit, de l'Église catholique, du catholicisme, qui fait toujours un petit peu peur? Est-ce qu'elles ne sont pas toutes d'accord pour condamner l'avortement, pour condamner la sexualité débridée, et donc finalement, pour est-ce qu'elles ne sont pas toutes prêtes, naturellement et idéologiquement, à soutenir la marche pour la vie?
Bon, ça suppose une petite histoire de l'Église, mais on va pas la faire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les évêques jusqu'à maintenant avaient des complexes, et que maintenant ils sont décomplexés, du moins dans
pour exprimer
certains.
Leur propre orientation.
Ouais, mais bien évidemment.
Oui. Comme j'ai déjà
et celle du pape.
Beaucoup d'amis, je vais essayer d'en augmenter le nombre.
Ah, bien sûr.
Moi, il y a une chose qui me frappe et qui me surprend quand même, c'est que je lis, alors sauf erreur de ma part, vous avez classé les évêques et cardinaux en tête.
Hein, oui, donc, exact. Voilà.
Oui. Comité d'honneur et de soutien, Monseigneur, il y a son excellence le cardinal Gagnon, son excellence le cardinal Stickler, Monseigneur Le Gall, dont Gérard Calvé, Monseigneur Vladimir, Monseigneur Vac qui est prélat, qui n'est pas... Qui n'est pas
Exact.
Mais derrière, au fond dans cette liste, moi je m'attendais à trouver Monseigneur Felet.
Ah oui, alors ça c'est une très bonne question, parce que justement, il faut l'évoquer. Et, alors, on va vous lire tout simplement une lettre que nous avons reçue de la part de Monseigneur Felet. Vous allez voir les termes.
On peut dire qui c'est pour les gens.
Alors, messieurs,
certains sont
le supérieur de la fraternité Saint-Pilis.
Voilà. Donc, Monseigneur, ça c'est signé de l'abbé Philippe Lové, qui est son secrétaire. Monseigneur vous encourage sans réserve au combat que vous menez pour la vie contre la culture de mort. Combat certes pacifique, mais qui, par son caractère public et ouvertement catholique, veut à la fois implorer le ciel des grâces nécessaires à toute entreprise de cette envergure, afin qu'elle porte des fruits, et tente de réveiller nos contemporains de cette torpeur qui les engage sur la voie du suicide d'une civilisation jadis chrétienne. Bon, il y a après un mais qui fait qu'il ne va pas soutenir...
Il ne souhaite pas adhérer au comité.
Adhérer au comité, et il finit sa lettre. En vous remerciant cependant de votre démarche, je vous prie d'agréer mes plus respectueuses salutations auxquelles je joins également ma prière pour la bonne réussite de cette marche pour la vie. Bon, ça veut dire qu'on l'a pas sur la liste, mais bon...
Mais il ne veut pas adhérer au comité pour des raisons qui sont certainement très bonnes.
Vous figurez des prélats...
Probablement parce qu'il y a Daniel et Serge de Beckett,
je pense que je pense essentiellement ça.
Le comité où figurent des prélats conciliaires, où j'ai encore mal compris.
Mais oui, non, bien sûr, Monseigneur Le Gall et on a reçu une petite lettre
de combat à front renversé.
Pour mouiller un petit peu, on a reçu une petite lettre du Monseigneur Brincard qui disait un petit peu des choses comme Monseigneur Félé.
Bon.
Donc vous êtes plutôt satisfait, ça marche.
Oui, tout à fait, ça marche.
Alors, il y a un petit détail, parce que parmi les... On parle que des prélats, etc., mais nous avons aussi des gens qui sont des laïcs, et parmi lesquels, Harry Vatanen.
Oui, j'ai vu ça, Harry Vatanen, c'est extraordinaire, c'est le pilote automobile.
Le pilote automobile, champion de rallye, Harry Vatanen.
Alors peut-être que nous aurons bientôt le même du sein, c'est possible.
Ah ben, il faut lui demander, je pense.
Nous l'avons demandé, nous allons mettre recevoir, n'est-ce pas?
Bien. Donc, samedi 18 octobre, 17h30, place des Victoires. Enfin, devant Notre-Dame des Victoires,
précisément. C'est la place des Saint-Pères.
Voilà.
Et donc, ceux qui veulent nous envoyer un soutien financier, parce qu'évidemment, nous avons tiré 80 000 tracts, donc ça se paye, peuvent toujours envoyer leur soutien à Renaissance catholique, 89 rue Pierre-Brossolette, 92 130 à Issy-les-Moulineaux.
Et plus simplement, ils peuvent faire un virement au CCP de Renaissance catholique, numéro 1, 215, 63, P, Paris CCP.
Voilà. Toutes ces informations seront dans le prochain numéro du Libre Journal, je le signale, pour les adresses et les numéros de téléphone. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais...
Mais c'était très gentil de votre part de nous avoir reçus.
Vous avez des annonces?
Si j'annonce le prochain dîner débat de Radio Silence, le mercredi...
Vermeling, qui est également membre du comité de soutien et d'honneur.
le mercredi 29 octobre à 19h30 avec Monsieur Jacques Burel sur le thème « Le linceul de Turin, hier et demain ». Restaurant Le Grenadier, premier étage de la gare d'Austerlitz à Paris, prix par personne 22 €. Et vous pouvez envoyer votre chèque, surtout on vous le recommande dès maintenant, chèque de réservation de 22 € à La Voix du Silence, 5 rue Dufrénois, Paris 15e. Et les cavatines de Nathalie Vamparis présentent, comme de bien entendu, cabaret bouffe de Georges Vamparis sur la péniche Opéra, les 16, 17, 18, 20, 21 octobre à 20h30. Réservation 01 53 35 07 77 46 quai de Loire, Paris 19e.
Merci Victoria, merci à tous. Bonne semaine, merci Patrick Gosman. Bonne
Bonsoir
semaine.
Serge de Bekech.
Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 1er octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 2, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal...